Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz, 6, à Caen sur 100, 6, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui en première partie par Daniel Amich, en seconde partie par le sieur de Bekech lui-même, toujours avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 21 septembre 2005 de 18 à 21h, en différé jeudi 22 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Eh bien, bonsoir à tous. Tous ceux qui ont la gentillesse de nous écouter ce soir en direct pour ce libre journal du 21 septembre. Bonsoir Victoria, vous êtes un peu sortie de votre scénario ce soir, vous avez rajouté des choses sur la...
Moi on m'a dit que c'est fallait bon. que je brode.
La radio est un art d'improvisation, en fin de compte, c'est ça qui est bien. Je salue, alors attends, je vais commencer par saluer le directeur de ce libre journal, monsieur Serge Bekech, qui est là.
Ami de la monarchie, bonsoir. elle a improvisé, elle a mis le ton.
Bien.
Victoria, elle
le ton
bien.
Toujours.
C'est vraiment tout à fait bien.
Le temps. C'est le pêche au gros, là.
Bon, alors ça, c'est donc c'est le Marquis d'Olmeta qui vient de vous parler. Et puis alors, Serge, c'est gentil d'être avec nous.
Oui, parce que j'ai eu beaucoup de réflexions. Oui. On m'a dit, vous devriez quand même surveiller un peu Amich, parce qu'on est toujours à la limite de la... De la 17e, donc je suis venu pour surveiller.
On est souvent dans l'alcôve.
Bon. Voilà,
mais jusqu'à présent, on n'avait rien dit qui puisse
L'émission ne fait que commencer, mais.
Pas encore.
Toutes les espérances sont permises.
Bon, en tout cas, ça me fait très plaisir de vous avoir à mes côtés ce soir dans votre émission.
Il faudra que je sois venu.
Ah non, pas foudrage du tout. Non, mais enfin, bon, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est des questions d'organisation, quoi.
Oh, bon, tout de suite, les grands mots.
Voilà, il faudrait qu'on l'arrive. Bien, la réunion de notre émission de ce soir a pour invité principal quelqu'un dont je ne cache pas que c'est un très bon ami, c'est Guillaume de Thulois, avec lequel on a quand même beaucoup collaboré dans les années passées. Voilà, sans dire de choses. Sans aller outre.
Avoir un fixe.
Et, ah oui, voilà, donc arrive le deuxième invité qui va s'asseoir tout de suite. Asseyez-vous, monsieur l'abbé.
Bonsoir, monsieur l'abbé.
Voilà, on va le saluer, on va lui faire les salutations. Mais je présente quand même l'ami Guillaume de Thulois. Et je l'ai invité ce soir pour parler d'une grande personnalité quand même, mais fort peu connue, oubliée. À tort, me semble-t-il, puisque je crois encore que son influence est loin d'être éteinte, il s'agit de Jacques Maritain, pour un ouvrage que vous avez signé aux éditions Gallimard, qui s'appelle « Le chevalier de l'absolu », sous-titré « Jacques Maritain entre mystique et politique ». Alors c'est un livre tout à fait magnifique dont on va parler sur un aspect uniquement parce que le temps malheureusement nous est mesuré. Et comme nous avons la joie d'avoir également dans le studio ce soir monsieur l'abbé Guillaume de Tannouarn.
Bonsoir.
Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu, au moins une semaine, deux semaines c'est ça. Bon. Qui lui vient nous parler plus précisément ce soir du centre Saint-Paul, qu'il a créé déjà l'an passé, c'est un petit peu avant l'été.
Au mois de mai.
Enfin oui, ça, pour
au
moi,
joli mois de mai.
Moi, l'année commence en septembre, c'est la rentrée des classes, donc c'était au mois de mai, et là c'est la grande rentrée, donc vous allez nous en parler de façon ample et détaillée. Et puis dans le même temps, comme vous savez que vous êtes très intéressé par la thèse que Guillaume de Thieulois a écrite. D'ailleurs, je vois que vous êtes arrivé avec.
Je l'ai apporté, oui, je me suis dit que ça pouvait servir.
Ça peut toujours servir. eh bien, je serais heureux si vous pouviez participer à notre discussion de ce soir. Alors, j'avais pensé, si Guillaume de Thieulois est d'accord, j'avais pensé qu'on centrerait un petit peu notre discussion sur un thème particulier qui serait, disons, bon, la pensée ou la philosophie de Jacques Maritain par rapport au Concile Vatican II, c'est-à-dire l'influence qu'il a pu avoir sur les pères conciliaires, sur les papes, etc., notamment sur les thèmes qui nous intéressent tous beaucoup, à des titres divers et peut-être avec différents aspects de la question, qui est la fameuse et terrible question de la liberté religieuse. Mais il n'y a pas que ça chez Maritain, évidemment, mais on est obligé de... Maritain est mort dans sa 91e ou 92e année, je crois, puisqu'il est mort en 73,
il est né en 82,
donc ça fait 91, 90, j'ai quand même mes petites fiches dans ma tête, bon. C'est quand même un personnage très important qui a, je dirais, c'est pas l'homme du XXe siècle, puisqu'il est déjà né, s'est déjà manifesté au XIXe, il était majeur quand le XXe siècle commençait, et puis il a quand même été jusqu'au bout des trois quarts, pour ainsi dire, de ce siècle terrible que nous avons quitté sans regret, mais eu égard à la physionomie que le nouveau présente, je ne sais pas s'il faut regretter d'avoir quitté le précédent. Enfin bon, ça c'est une question de point de vue. Alors Guillaume de Thieulois, pourriez-vous un peu nous camper le personnage dans sa philosophie, essayer de synthétiser Maritain, en quoi c'est intéressant aujourd'hui, en 2005, de parler encore de Maritain.
Alors, je serais tenté de répondre que ce qui est intéressant justement chez Maritain, c'est qu'il est difficile à synthétiser. Ça part un peu dans tous les sens. Ça a été un métaphysicien, un spécialiste de philosophie esthétique, un penseur du politique. Il a eu un certain nombre de casquettes intellectuelles assez diverses. Il a été une sorte de confesseur laïque de la plupart des surréalistes et des artistes de l'entre-deux-guerres. Enfin, donc il a toute une série de casquettes, disons, qu'il rend difficile à synthétiser. J'y suis venu par deux biais. Le premier, c'est que c'est un des commentateurs les plus connus de Saint Thomas d'Aquin au XXe siècle, et donc quand je travaillais sur Saint Thomas d'Aquin, c'était assez naturellement on tombait sur Maritain ou sur Gilson. Et puis la raison pour laquelle je me suis intéressé à Maritain surtout, c'était la question de la liberté religieuse que je trouve, qui à mon avis est une question dramatique pour depuis une quarantaine d'années. C'est en gros le vrai problème, c'est est-ce que le magistère conciliaire et post-conciliaire est compatible ou pas avec le magistère
antérieur. Voilà. C'est un sacré problème.
C'est un énorme problème dont les enjeux sont évidemment très lourds et dépassent largement la personne de Maritain et surtout ma petite pensée à moi. Mais
oui, parce que ce n'est pas qu'un débat théorique, c'est un débat très très pratique dont on voit par exemple aujourd'hui tous les problèmes, par exemple quel est le statut de l'islam par exemple en France, ou quel est le statut des religions de la religion chrétienne aux États-Unis par exemple. On voit que là c'est des choses extrêmement concrètes, donc on n'est pas du tout dans les nuées, comme ça, en train de discuter du sexe des anges.
Ça a des implications pratiques. J'ai travaillé un peu, pas sur Maritain, mais en marge, j'avais étudié la question des concordats espagnols. Vous savez peut-être que Paul VI a exigé de Franco une renégociation du concordat espagnol pour introduire la pensée de la liberté religieuse dans le concordat qui avait été signé précédemment par Pie XII.
C'était un concordat extraordinairement... Celui signé avec Pie XII était extrêmement extrêmement favorable à l'Église catholique.
Et à mon sens, le concordat Franco-Pie XII était l'exemple même de ce qui est possible de faire et de ce qu'il est souhaitable de faire dans une situation qui est très loin d'être la situation de chrétienté médiévale vers laquelle il faudrait tendre. Mais compte tenu de la situation contemporaine, le concordat qui avait été signé dans les années 50 par Pie XII et Franco me semble un excellent modèle de ce qu'on pourrait faire. Et à titre personnel, je trouve que la renégociation qu'a imposé Pie XII, ce qui est tout à fait surprenant, c'est que c'est le pape qui a demandé que la situation privilégiée de l'Église catholique soit abolie. Moi, je trouve ça assez ahurissant. Mais typiquement, c'est des questions juridiques pratiques sur ce qu'on fait à l'école primaire ou comment sont rémunérés les ecclésiastiques ou quel bien l'Église a le droit d'avoir. Ces questions éminemment pratiques sont des conséquences évidentes de la déclaration sur la liberté religieuse. Donc vraiment, on n'est pas du tout dans les nuées. C'est un débat théorique très compliqué, mais en même temps, ça a des implications pratiques évidentes.
Alors bon, on va se recentrer à présent sur cette question de liberté religieuse et surtout la façon peut-être un peu particulière que Maritain a d'expliquer cette notion qui n'est pas exactement celle du courant majoritaire autour de l'acceptation de la pensée religieuse. C'est un petit peu plus subtil. Peut-être que ça vient d'ailleurs de son séjour aux États-Unis. Peut-être qu'il a pris là-bas. Moi, je suppose qu'il a pris là-bas quelques notions à cet égard transportées dans un monde totalement différent du monde qu'il y avait dans les années 30. Enfin, disons en Europe occidentale, les États-Unis lui ont ouvert peut-être des perspectives. Enfin, je voulais dire aussi que donc on va parler que d'un aspect du livre qui regorge de thèmes d'intérêt. Bon, on peut pas tous les traiter. Que c'est un boulot époustouflant. Époustouflant de d'érudition, de connaissance parfaite des hommes, des idées, des
courants de l'opinion. Et si je peux ajouter mon grain de sel,
oui, l'abbé de Tannouard d'Alésie, bien sûr.
Parce que je l'ai lu et je dirais que l'érudition y est parfaitement digérée.
Très bien.
Ce livre se lit extrêmement facilement. Et quand on connaît un petit peu les problèmes difficiles auxquels vous vous attaquez, eh bien, on a l'impression que vous vous en jouez. Et ce qui est agréable, c'est que le lecteur vous suit sans trop de peine, vraiment. C'est un livre qui c'est la biographie d'un intellectuel, c'est vrai, et vous abordez tous les problèmes qu'il s'est posé sans concession. Ce qu'on est en train de dire sur la liberté religieuse le montre, mais vous le faites avec une aisance remarquable.
Tout à fait, oui.
Et je pense que c'est...
peut-on dire aussi beaucoup d'affection pour la personnalité dont vous parlez, parce que on sent que vous êtes vraiment très très souvent, à la fois ça se sent dans votre livre et par ailleurs quand on vous connaît un peu, on sait quand même assez éloigné d'un certain nombre de positions de Maritain, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en même temps, on sent pour lui une grande affection.
Ça a été un maître. Je suis pas de ceux qui crachent dans la soupe, même quand on s'éloigne de ses maîtres. Moi, j'ai appris énormément à la lecture de Maritain. Je ne cache pas. Maritain est un de ceux avec Gilson qui a pour moi fait vivre Saint Thomas d'Aquin au XXe siècle. C'était pas négligeable et pas du tout évident compte tenu du climat intellectuel du XXe siècle.
À l'époque où Saint Thomas était quand même
un peu pourchassé dans les universités, notamment les universités catholiques.
C'est un petit peu vrai. Alors donc liberté religieuse. Voilà, le mot liberté a collé au mot religion. Est aussi séduisant qu'un bel emballage autour d'un bonbon empoisonné, en fin de compte. Hein, liberté religieuse, c'est quand même très très curieux. Parce que pour un catholique, être libre, c'est faire la volonté que Dieu veut pour nous. C'est ça, la liberté. Bon, liberté religieuse, c'est sûr que ça se pose pas dans les mêmes termes à l'époque de Maritain, aujourd'hui, que ça se posait au Moyen-Âge, où il y avait une chrétienté, il y avait des états chrétiens. Le monde a changé, la révolution, tout ça est venu là-dessus, qui fait que on n'est plus du tout dans la même perspective. Alors je vous disais tout à l'heure, c'était pas par blague, mais parce que c'est vraiment un sujet très intéressant et qui mériterait de longs développements, c'est cette espèce de fascination que Maritain a eu pour les États-Unis, puisqu'il est parti aux États-Unis, il est parti dans les années 40, enfin.
Oui, il a été enseignant un peu dans les années 30, et puis il a émigré en
pendant des années, bon. cette fascination qu'il a eue. Alors, pour un motif qui est que je comprends, qui me semble... Bon, moi, je le prends pas à mon compte. Hein. C'est le fait qu'il... Et parce qu'il a tort, il sait pas tout à fait la vérité. Il était aux États-Unis, il y voyait un pays sans histoire, donc sans le poids de l'histoire que nous, Européens de l'Ouest, notamment, nous portons sur notre dos. C'est vrai que dès qu'il y a un débat politique ou moral ou éthique en France, automatiquement, on le fait, tout le monde le fait par rapport à des références antérieures. Qu'aux États-Unis, c'est un petit peu, c'est quand même un petit peu différent, mais pas tout à fait vrai non plus, parce qu'il y a aussi quand même une histoire américaine, même en 1940 il y avait déjà quand même une histoire américaine.
Oui, et puis surtout la pensée politique américaine est très enracinée dans la pensée politique anglaise, qui est, enfin, tous les débats entre fédéralistes et antifédéralistes entre 1776 et 1787 sont passent leur temps à parler de Platon, à parler de Cromwell, leurs penseurs sont pas... Évidemment, quand ils ont commencé, il n'y avait pas beaucoup de penseurs aux États-Unis. Il y en a un peu plus maintenant, et même il y en a plus qu'en Europe.
Il est très bon.
Mais ils se sont considérés un peu comme Moscou s'est considéré comme la troisième Rome. Les États-Unis se sont considérés comme la nouvelle Angleterre, à la fois au sens géographique et au sens idéologique.
Oui, parce que bon, alors ce qui l'a surpris là-bas aux États-Unis, c'est à la fois donc il y a une séparation de l'Église et de l'État, mais c'est pas le mot séparation, il y a une distinction entre l'Église et l'État, comme nous aurions nous ici dans les papiers, dans les constitutions, nous on a séparation, n'est-ce pas? Mais là-bas il y a une distinction dans une société extrêmement religieuse, mais où toutes les religions sont traitées sur un pied d'égalité, en fin de compte. Bon, c'est ce qu'il voit de neuf là-bas, c'est une conception, disons, une certaine forme de laïcité de l'État, qui est infiniment moins sectaire que ce qu'on avait vu en France depuis 1905 et qu'on continue encore à voir aujourd'hui. Et d'un autre côté, du fait qu'il n'y a pas cette histoire d'une religion majoritaire, puisque ceux qui ont fondé les premiers pères fondateurs, enfin les pères fondateurs, ceux qui sont arrivés sur le Mayflower, bon, c'est bien ce nom-là de bateau, bon, le Mayflower, étaient des gens qui justement fuyaient donc une certaine religion d'État. Alors, ils se sont gardés toujours, les Américains, de mais la Constitution américaine autorise évidemment tous les cultes, mais n'en favorise aucun.
C'est ça.
Et est-ce que c'est ça qui l'a vraiment, qui l'a intéressé là-bas?
Oui, c'est clairement. En fait, quand il a débarqué aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui l'ont intéressé. C'est une personne qui était, à la fin des années 30, une personne profondément dégoûtée de la société européenne. Ce qui peut se comprendre et qui pour, enfin en tout cas pour un vieil européen comme moi, et pas tout à fait admissible non plus. Enfin, je comprends très bien que la situation était extrêmement tendue dans les années 30 en Europe, et en particulier Maritain a pas mal dégusté quand même dans les débats intellectuels de l'époque. Mais en même temps, cette fascination pour la page blanche qu'il imagine être le lot des États-Unis contre l'Europe, me semble fausse pour la raison que je viens de dire, c'est que les États-Unis ne se sont pas considérés comme une patrie vierge, et puis deux, me semble assez dangereuse parce que non conforme à la nature humaine. Je crois pas qu'on puisse prétendre innover l'intégralité de notre pensée. Pour moi, j'en suis toujours resté à la vieille doctrine de la préscolastique, c'est nous sommes des nains sur les épaules de géants. Je ne crois pas que qui que ce soit fasse quelque chose de brillant s'il n'emmagasine pas ce que ses pères ont fait. Quoi.
Serge de Becquet, je voulais faire un commentaire.
Oui, c'est peut-être un peu tard déjà dans le débat, mais je dois avouer que je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire quand vous parlez de la liberté religieuse, parce que parlez-vous? Est-ce que c'est la liberté de pratiquer la religion qu'on veut sur un territoire politique? Est-ce que c'est la liberté d'interpréter comme on veut la religion qu'on pratique? Est-ce que c'est la liberté de changer de religion? Je comprends pas. Alors, pour l'instant, ce que vous dites est passionnant, mais je trouve que la statue de Maritain, il manque un socle là dans votre débat.
On essaye d'avancer pas à pas pour bien camper le personnage et bien, parce que c'est un problème extrêmement délicat, la liberté religieuse. Elle est absolument inadmissible du point de vue de la ferme doctrine catholique. C'est une chose inadmissible. Il peut y avoir une liberté pour une religion autre que la religion catholique. C'est pas donné de la liberté.
Ce que disait Guillaume de Tulloy tout à l'heure, c'est que, enfin, quand il a cité le cas de l'Espagne, il dit que Paul VI est intervenu auprès de Franco pour que, en fait, l'Église catholique ne soit pas considérée comme la seule autorité religieuse en Espagne reconnue par le pouvoir. Bon, ça c'est une chose, mais ça concerne pas les croyants, ça, pas du tout. Ils n'ont pas le pouvoir de s'y opposer.
Non, attendez, c'est un
Guillaume de Tulloy, allez-y.
C'est plus exactement, ça concerne la nature sociale des croyants. La thèse de la doctrine catholique, c'est de dire l'être humain est un être social, donc comme individu, il doit rendre un culte auprès de Dieu, comme membre du corps social, il doit rendre, comme membre du corps social, un culte auprès de Dieu, ce qui veut dire, si on pousse la conséquence un peu, ce qui veut dire que normalement toute la législation doit être conforme à la morale, à la doctrine catholique, et même théoriquement l'État le détenteur de la souveraineté doit se déclarer exclusivement pour la foi catholique, au sens où il n'y a pas la place à côté de la vérité pour les erreurs.
Oui, mais là il y a pardon de revenir, mais il y a une contradiction fondamentale, c'est-à-dire que dans le comportement des autorités de l'Église, comment peut-on imaginer que le pape dise à la fois, ou que l'Église dise à la fois, de toute façon, un État, quelle que soit sa nature, n'a pas de possibilité de faire autre chose que de reconnaître la vérité dans l'Église catholique. Okay ? Et d'autre part, que ce même pape ou que cette même autorité ecclésiale aille voir n'importe quel chien coiffé dans les pays les plus exotiques du monde pour lui dire, est-ce que par hasard vous voudriez avoir l'extrême gentillesse de nous permettre de construire une église et de pratiquer notre culte chez vous ? Parce que c'est contradictoire. Vous ne pouvez pas dire à la fois aux gens, vous n'avez pas le choix, et puis quand les gens disent, bon ben, si j'ai pas le choix, moi je choisis quand même et vous allez vous faire cuire un œuf. Dire, ben, maintenant, est-ce que vous me permettez de me faire cuire un œuf chez vous ? Ça ne tient pas debout.
Mais c'est la thèse qu'ont tenue les pères conciliaires, mais qui me semble fausse. En gros, à l'époque, c'était plutôt vis-à-vis du communisme qu'on disait ça. On disait, on ne peut pas revendiquer la liberté religieuse chez les communistes si on la donne pas dans les pays catholiques. Mais c'est fou, parce que la différence fondamentale, c'est que dans les pays catholiques, la doctrine au pouvoir, c'est la vérité, et dans les pays communistes, la doctrine au pouvoir, c'est le mensonge. Donc, il n'y a pas de comparaison.
Franchement, je ne veux pas monopoliser le débat, mais je crois que là, c'est un peu radical quand même.
La vérité, c'est
pas la démocratie. Donc partout où la démocratie est pratiquée, l'Église doit dire, l'Église a une arme, pourquoi ne s'en sert-elle pas ? L'Église a une arme qui s'appelle l'interdit, qui consiste à dire, ce pays ne reconnaît pas la vérité dans le Christ et la vérité dans l'Église catholique et dans la foi catholique, par conséquent, nous mettons l'interdit sur lui. Voilà. Terminé. Fin du débat. Puisque les autres font la même chose.
Il y a
deux choses quand même. Il y a évidemment le débat de fond. Et sur le débat de fond, je pense que la position que je défendais est la bonne. En même temps, il y a un débat prudentiel. C'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. S'il y a quelques millions de catholiques qui vont se faire persécuter parce que le pape a mal négocié son concordat, c'est problématique quand même. Quand Pie XI négocie avec le gouvernement mexicain et qu'il envoie au casse-pipe les cristeros, c'est problématique. Pie XI avait évidemment le droit de faire ce qu'il a fait, et il n'empêche que j'aurais été clairement dans l'opposition et j'aurais pris les armes contre le pouvoir dit légitime, c'est clair.
Et quand le Christ dit à Pilate, tu tiens ton pouvoir d'en haut, alors qu'évidemment Pilate il n'est pas dans la vérité, il n'est pas, lui c'est un adepte de la liberté des religions. En tant que romain, on pratiquait absolument tous les cultes, y compris le culte du Dieu inconnu. Donc là, le Christ, en quelque sorte, il donne son onction, l'onction sacrée, enfin son onction, son accord, son aval à un chef qui lui dit liberté religieuse absolument, il n'y a pas le choix. Et il lui dit, mais le pouvoir que tu as de me persécuter, c'est de moi que tu le tiens.
Alors, rajoute un tout petit mot. J'ai peur que rajoutant ce mot, ça relance encore le débat, mais ensuite l'abbé de Tannum pourrait également en parler. Il y a deux concepts qu'il faut bien préciser, parce qu'il y a le concept de liberté religieuse et le concept de tolérance religieuse, qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'on peut, dans un État qui est majoritairement chrétien, on peut tolérer, et d'ailleurs...
Ils sont même en synodique, disons
voilà,
la même chose clairement.
Ça s'est produit. Dans la France médiévale de Saint-Louis, il y avait c'était catholique, très fort. Bon. Et puis il y avait aussi des communautés de juifs qui étaient toléré.
Bon. Donc la liberté religieuse existait.
Non, c'est une tolérance religieuse.
Quand on dit liberté religieuse en 2005, ça veut dire ce que définit le Vatican II, un droit à l'immunité de contrainte.
Un droit
à l'immunité de contrainte de la part de l'État. Donc concrètement, l'État n'a pas le droit d'utiliser la force policière pour favoriser ou interdire telle ou telle forme d'expression religieuse, y compris la athéisme. Ça c'est la doctrine de la liberté religieuse telle qu'elle est définie à Vatican II.
Alors, en France, on n'est pas dans un système de liberté religieuse.
Non, donc,
quand on est dans les scientologues,
tout à fait.
Non, mais la définition de Vatican II, à ma connaissance, n'a qu'une seule explication, c'est les États-Unis. Et d'ailleurs, elle a été écrite par un théologien américain, le père Courtney Murray, et par un philosophe qui a passé l'intégralité, enfin la plupart,
grande partie de son temps aux États-Unis.
C'est la nomination d'aumôniers satanistes dans les armées américaines, ce qui s'est passé quelques mois. Donc le Concile Vatican II a permis, en fait, la nomination d'aumôniers satanistes.
Mon cher Serge, là, vous anticipez sur votre seconde partie. Bon, alors, est-ce que l'abbé voulait dire un petit mot?
Non,
plus qu'un mot, d'ailleurs, le connaissant.
Non, c'est une matière extrêmement complexe.
Très complexe.
Et il me semble qu'il aurait fallu faire les distinctions qu'appelait Serge. Et ces distinctions, elles sont elles-mêmes complexes parce qu'elles utilisent des termes qui ont été fixés au XIXe siècle par les papes antilibéraux du XIXe siècle, Grégoire XVI et Pie IX, et qu'en fait aujourd'hui elles ont reçu une nouvelle acception dans le langage courant. Donc lorsqu'on les utilise, ces termes, il faut en plus se dire que ce sont des termes techniques et non pas les termes du langage courant. Alors, il y a la liberté de conscience, il y a la liberté religieuse. Ce sont déjà deux choses différentes. La liberté de conscience, c'est la question très simple de savoir ce qui, pour une conscience, est plus important, la liberté ou la vérité. Est-ce que la liberté est le bien absolu ? Est-ce que finalement l'essentiel c'est ma vérité, c'est-à-dire la vérité telle que ma liberté lui donne une forme? Bon, finalement c'est une sorte de vérité à la carte, si vous voulez. Cette perspective-là, l'Église l'a toujours très résolument condamnée, et Benoît XVI, dans son discours, dans plusieurs de ses discours récents, tonne contre le relativisme. Eh bien, c'est de cette liberté de conscience, non pas au sens courant, mais au sens technique du XIXe siècle, qu'il s'agit. Et il est très clair que ce serait une catastrophe que de se dire la recherche de la vérité n'a en elle-même d'autre importance que celle d'épanouir ma liberté, si vous voulez. Hein ? Si je cherche la vérité pour moi, pour ma liberté, j'ai ma foi, ma croyance, mon projet métaphysico-religieux. Bon, eh bien là, on est dans le subjectivisme religieux qui est quand même actuellement très répandu dans les mentalités.
Mais d'une certaine manière, avec le libre arbitre, avec le libre arbitre, on peut dire, avec tout le respect possible, que Dieu fait le pari que la liberté conduit forcément à la vérité.
Tout à fait. Mais Dieu fait ce pari en sachant qu'il va le perdre. Puisqu'il y a le péché originel, et qu'on sait très bien depuis le péché originel que justement la liberté de l'homme ne le mène pas infailliblement à la vérité.
Je voudrais poser une question. La question,
oui, Marquis.
La question du Béotien, là. Qu'est-ce que ça veut dire quand dans un État, dans sa constitution, dit le catholicisme est religion d'État dans ce pays?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
En général, ce qui est intéressant, c'est de regarder les articles qui suivent. Parce que on peut avoir ça en façade. Par exemple, le Concordat de 1802 ne disait pas tout à fait que le catholicisme était religion d'État, mais il disait que le catholicisme était religion de la majorité des Français, ce qui a été...
C'est
pas la même chose, j'entends bien. C'est pour ça que je prends des gants. Mais ce qu'il faut regarder, c'est après. Parce qu'il peut y avoir deux tendances quand on dit que le catholicisme une religion d'État, soit faire des évêques des préfets violés à Napoléon, soit considérer que la hiérarchie ecclésiastique a un poids dominant dans le débat intellectuel, moral et...
Je vais arrêter, je plaisantais, parce que je voulais dire, le dernier État européen où l'article 1 dit le catholicisme est religion d'État, c'est la principauté de Monaco, c'est QFD.
Oui, c'est intéressant, c'est à souligner.
Et si c'est le dernier État européen, c'est parce que le pape Paul VI, au nom du Concile Vatican II, a voulu imposer la liberté religieuse, c'est-à-dire a voulu imposer le pluralisme religieux dans les États. Et ça, c'est un autre problème. Est-ce que ce pluralisme religieux est de fait ou est-ce qu'il est de droit ? Oui, voilà. Pour le Concile Vatican II, tel que l'entendait le pape Paul VI, son interprète authentique, le pluralisme religieux était de droit.
Et pas de,
et,
pas de
et par conséquent, les pays catholiques qui ne le pratiquaient pas devaient se mettre à le pratiquer et l'Église devait abandonner tous ses privilèges et en particulier renoncer à être la religion de l'État. Et ça, c'est très ennuyeux parce que c'est condamner finalement l'État à la sécularisation. Or, un État qui se sécularise, c'est un État qui devient un dieu laïque. C'est-à-dire que la dimension transcendante de l'État, au lieu d'être rapportée à l'Église et à la loi douce de l'Église, ne se rapporte plus qu'à lui-même. Et finalement, on a là la tentation totalitaire qui gangrène nos démocraties étatisées. Ce qui est extraordinaire, c'est quand même de noter que Jean-Paul II a vu ce glissement vers le totalitarisme. Il le dit dès 1991 dans l'encyclique Centesimus Annus, et il me semble que déjà ce disant, qu'il s'en soit rendu compte ou non, en retrait par rapport au bel optimisme libertaire de Paul VI, caractéristique des années 70.
Guillaume de Thulois, pourriez-vous à présent nous dire qu'est-ce que Maritain met derrière le concept de liberté religieuse? Vous avez encore un peu de temps.
Je vais juste faire une remarque à propos de ce que disait l'abbé Tannouane. Il faut distinguer quand même entre deux styles de séparation de l'Église et de l'État qui sont le cas où l'État est très puissant et le cas où l'État est très faible. Ça n'a rien à voir avec l'Église, j'entends bien. Mais par exemple, aux États-Unis, le fait que l'Église soit séparée de l'État n'entraîne pas de soi un totalitarisme. Mais ça n'entraîne pas de soi parce qu'il y a une société civile extrêmement forte, une vie associative très forte. Mais en France, quand l'État l'État monarchique a fait la France, et donc quand la République laïque récupère le morceau, elle se met très très logiquement à la place d'un dieu laïque. Et là, effectivement, elle devient totalitaire. On entend un candidat au présidentiel nous expliquer que ça serait criminel si par hasard il y avait une loi morale qui primait sur le... Voilà, je crois qu'il faut...
Primer la loi politique, mais c'est quand même important de le reconnaître parce que c'est quand même le raisonnement d'Eichmann quand il concourt à la déportation des Juifs. Hein, il ose dire dans le procès de Jérusalem, moi on m'aurait demandé de convoyer des sacs de pommes de terre, c'était pareil, puisque c'est l'État qui me le demande. L'État prussien ou l'État hitlérien, d'ailleurs, pour lui, c'est la même chose, à mon avis, dans sa petite tête. Me commande ça, je le fais, je me pose pas de questions. Il n'y a pas de loi morale supérieure. Exactement. La loi de l'État est la loi absolue. Eh bien, c'est ça, le totalitarisme.
Tout à fait. Et les récents enseignements du Saint-Siège, que ce soit d'ailleurs de Jean-Paul II ou même de Benoît XVI, par exemple, sur les questions d'avortement, appel à l'insoumission vis-à-vis de lois d'État qui sont absolument opposées à la loi morale, à la loi divine, à toutes sortes de lois.
Il y a rigoureusement le même devoir de s'insurger contre ces lois totalitaires que contre les lois de Nuremberg, parce que c'est pas à l'État, c'est pas à une assemblée parlementaire de trancher des sujets comme la vie et la mort de l'homme. Sauf si la société doit se défendre contre telle ou telle personne, mais ça c'est un peu différent. Mais bon, je reviens à votre question sur
C'est un débat qu'il faudra reprendre peut-être dans d'autres sénats,
c'est une affaire considérable.
L'intérêt d'ailleurs de Maritain, c'est que c'est à peu près le seul intellectuel à mettre sous la notion de liberté religieuse à peu près exactement ce que met le magistère conciliaire et post-conciliaire sous ce mot-là. Pour lui, la liberté religieuse, c'est une liberté contre l'État. C'est pas une liberté contre la vérité. Parce que dans ces cas-là, faut toujours regarder l'ennemi. Il faut regarder les amis, regarder les ennemis. L'ennemi de la liberté religieuse de Maritain, c'est l'État. Il considère, et il pouvait avoir des raisons sérieuses de le considérer quand il regardait la France de l'époque, mais il considère que l'État usurpe son droit quand il impose quoi que ce soit en matière métaphysique ou religieuse, et donc il théorise le droit à l'immunité de contrainte en matière religieuse. Cela étant, à mon avis, jusque-là, c'est juste, à condition de maintenir une articulation que pour l'instant je n'avais vue nulle part, et que je suis tout à fait prêt à admettre d'où qu'elle vienne, mais pour l'instant j'ai jamais compris comment on pouvait faire ça. Il dit en gros à deux paragraphes d'écart, je revendique un droit absolu pour la vérité, puisque j'ai pas la liberté de croire n'importe quoi, et je revendique qu'on me laisse croire n'importe quoi, parce que c'est pas à l'État de me l'imposer. Évidemment, c'est pas à l'État de nous imposer la vérité religieuse, j'entends bien, mais si on revendique la liberté absolue en matière religieuse, et qu'en même temps on revendique un droit absolu de la vérité à être crue pour elle-même, le problème, c'est comment on articule ça. Pour l'instant, j'ai toujours pas compris. Pour moi, la difficulté majeure de cette déclaration conciliaire d'Initatus Humanae, c'est que vous avez un premier chapitre qui vous dit, qui vous rappelle la doctrine traditionnelle sur les droits de la vérité et la liberté de l'Église. Et puis derrière, vous avez un deuxième chapitre qui vous théorise le droit à l'immunité de contrainte et donc le droit absolu à la liberté en matière religieuse.
Ils ont essayé, si je peux me permettre, de faire la soudure entre ces deux paragraphes dans la conception.
Parlez plus près du micro.
Dans la conception de la recherche de la vérité, c'est-à-dire que ils ne parlent plus de la vérité, ils parlent de la recherche de la vérité. Le problème de cette théorie de la recherche de la vérité, c'est qu'elle est extrêmement tendancieuse. Au fond, la recherche de la vérité, c'est l'impératif premier de tous les francs-maçons du Grand Orient de France depuis la fin du 19e siècle. Mais c'est très important, ça. Ça veut dire que finalement, l'homme met la recherche avant la vérité, quelque part. Et donc, on n'est plus dans le christianisme réel. Et donc, quand Vatican II parle de la vérité, il faut jamais oublier qu'il ne parle pas de la vérité telle qu'elle se donne, mais telle qu'elle se cherche. Et donc, on est conduit, c'est le paragraphe 3 de Dignitatis Humanae, les uns cherchent la vérité avec les autres, dans un dialogue. Si on arrive à la fois avec ça, je paye un billet.
C'est pour ça que je suis fondamentaliste, parce que la réponse, elle est dans l'évangile. Quand le Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et c'est pas la peine de chercher, il n'y a rien à chercher. Alors ce qu'on peut demander, c'est la connaissance de ça.
Comme dit saint Augustin, il ne faut pas comprendre.
La capacité d'adhérer à la vérité.
Il faut croire pour comprendre.
Voilà, c'est tout.
Ce qui ne veut pas dire avoir la foi du charbonnier, ce qui veut dire que la foi est l'origine de notre compréhension du monde. Et c'est d'une prodigieuse intelligence. Je voudrais le dire pour les auditeurs qui n'en ont peut-être pas l'idée, mais la foi. La
foi chrétienne reçue apporte une lumière et une intelligence sans équivalent.
Alors j'espère que le débat qu'on vient d'avoir donnera aux auditeurs l'envie de réfléchir à cette question, et notamment à partir de la position de Marietta, qui me semble une position vraiment très très intéressante, mais il nous faut quand même aussi donner la parole aux auditeurs, parce qu'on a reçu beaucoup de messages pendant cette courte séquence.
Un auditeur vous demande, la véritable liberté religieuse ne serait-elle pas la fameuse phrase de saint Augustin, aime et fais ce que tu veux?
Oui, le problème de cette fameuse phrase, c'est qu'elle est sujette à beaucoup d'interprétations.
On peut pas répondre, on n'a pas le temps de répondre là-dessus. Oui.
Et que pensez-vous du jansénisme par rapport au sujet de l'émission?
Tout ça, c'est des sujets passionnants, mais on n'a pas le temps. Donc on ne peut pas répondre à tout ça.
Et un auditeur nous dit, je suis occidental et fier de l'être. Je trouve que vos propos sont radicaux. Je considère qu'ils sont presque aussi dangereux que les propos tenus par les islamistes.
Alors ça, je pense que c'est quand même très important de s'en défendre. Le problème, c'est que, et ça permettra de compléter ce qu'on devait dire sur la liberté religieuse pour répondre à Serge, le problème, c'est que les islamistes ne distinguent pas l'Église, l'État et la société. Hein. Et donc, il n'y a au fond qu'une communauté créée par une loi qui est la charia. Il y a ceux qui observent la charia et qui sont dignes de respect, et puis ceux qui sont en dehors de la loi, qui sont pas dans l'ordre, donc qui n'existent pas comme respectables. C'est ça le ressort du fondamentalisme musulman. Eh bien, je pense que nous, chrétiens, nous ne pouvons pas être fondamentalistes en ce sens, n'en déplaise à Serge qui, tout à l'heure, dans un grand élan...
C'est évident que je ne vais pas poser de bombe dans le métro en sortant. pas pour convertir les gens, en tout cas.
Mais on ne peut pas, pourquoi? Parce que on reconnaît qu'il y a un ordre social... Et qu'il y a un ordre religieux et que les deux ne se confondent pas. Il y a l'ordre social qui est naturel, mais il faut que la société plus ou moins s'oriente vers Dieu, sinon elle a tendance à créer elle-même son propre Dieu mortel, comme disait Hobbes, qui est l'État. Bon. Avec l'horreur nazie qui en découle. Mais je crois que le chrétien, tout naturellement, admet ce que Pie XII appelle une saine et légitime laïcité, c'est-à-dire qu'il admet qu'il y a un ordre social qui a ses lois propres, mais qui doit être, bien entendu, orienté vers la vérité religieuse, et qu'il y a un ordre religieux qui est différent, qui est l'Église, car il y a un royaume de Dieu sur la terre qui est l'Église, et qui n'est pas la société civile, n'en déplaise à tous les idéologues et à tous les vendeurs de paradis terrestres.
On va être obligé malheureusement de s'arrêter là parce que le temps court. Et alors bon, écoute, pour les personnes qui sont vraiment intéressées par ça, on refera des émissions là-dessus parce que c'est vraiment vraiment intéressant.
Je pense que c'est
on n'a pas le temps, on n'a vraiment pas le temps. Donc je rappelle quand même le titre de l'ouvrage pour ceux qui souhaitaient d'ailleurs se procurer l'ouvrage. On peut rappeler que Guillaume de Tulloise le signera.
Alors samedi prochain, 24 septembre, de 15h à 18h30, Guillaume de Tulloise dédicacera le Chevalier de l'Absolu, Jacques Maritain entre mystique et politique, à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e.
Voilà, ce sera l'occasion pour les auditeurs qui souhaiteraient de vous rencontrer et puis de discuter peut-être un petit peu avec vous. Alors, Guillaume de Tulloise, le Chevalier de l'Absolu, Jacques Maritain entre mystique et politique, c'est publié chez Gallimard. L'esprit de la cité, c'est la collection, je suppose, de chez Gallimard. C'est un livre qui est très très bien fait, qui fait 300 pages et qui est vendu pour la modique somme de 21 €. Voilà.
Une collection prestigieuse, dirigée par Pierre Manon, c'est ça?
Non, par Anna Lévy.
Ah bon?
Pierre Manon, c'est mon directeur de thèse.
Il y avait juste un petit mot, la fille du docteur.
Ah, il a publié dans cette collection.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Alors, la fille du docteur Diquet est venue sur Radio Courtoisie pour parler de sa thèse sur Jacques Maritain.
Oui, oui.
Qu'en pensez-vous?
Je suis en train de la lire, pour l'instant.
Et un petit reproche, Jacques Maritain n'était pas majeur en 1900, car à cette époque, la majorité n'était pas à 21 ans.
Oui, c'est tout à fait.
Était à 21 ans, pardon.
C'est tout à fait juste.
Détail.
C'est tout à fait juste. Mais enfin, il avait 18 ans, quoi, voilà. Bon. Mais ça, c'est quand même pas très très grave. Bien, nous allons nous interrompre. Une petite seconde. Nous interrompons une seconde pour écouter un message important de la radio.
une langue belle avec des mots superbes qui porte son histoire à travers ses accents.
Cette langue belle, Radio Courtoisie a voulu l'honorer en créant le prix Daudet. Cette année, le prix Daudet sera décerné le dimanche 6 novembre lors de la fête de la langue française, 18e anniversaire de Radio Courtoisie. Le jury du prix Daudet est constitué par l'ensemble des auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes membre du jury. Votez pour la personnalité française ou francophone qui, selon vous, a le mieux servi la langue française durant les 3 dernières années. Vous pouvez choisir parmi les écrivains, les journalistes, les producteurs de radio ou les producteurs de télévision. Demandez un bulletin de vote en nous envoyant une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse. Après avoir indiqué le nom de votre choix, il vous suffira de faire parvenir anonymement le bulletin à l'huissier mentionné. Cet huissier effectuera le dépouillement. La liste des 10 noms arrivant en tête sera publiée et le dimanche 6 novembre, les adhérents participant au déjeuner éliront par vote à bulletin secret celui des 10 noms qui sera proclamé prix Daudet 2005. Vive la langue française.
C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie.
Voilà, donc je pense que le message est clair, la façon de voter pour tous nos auditeurs est assez simple, il y aura donc deux étapes, c'est le vote de tous les auditeurs d'abord, et puis ensuite, les noms qui reviennent le plus souvent, la liste des 10 premiers noms qui apparaissent dans vos votes, eh bien sera une nouvelle fois votée lors de notre dîner de la langue française, le dîner de Radio Courtoisie, le 6 novembre prochain.
J'avais un tout petit message encore pour le monsieur de Tannouarn, qui
monsieur
dit Tannouarn, monsieur Lavé.
Monsieur Lavé, Tannouarn.
Oh, ça fait très 17e.
Vous n'êtes pas sulpicien.
Alors, disait, soutenez-vous toujours les positions qui furent les vôtres dans votre ouvrage Vatican II et l'Évangile, et notamment le chapitre 4, où il est question de Jean-Paul II.
Ah, bah alors,
je suis,
allez-y, Lavé.
Très heureux.
Après, vous allez parler
je suis
du
très heureux qu'on me pose cette question, parce qu'effectivement, je soutiens plus que jamais ces positions, et je crois que ceux qui ont pu assister au Centre Saint-Paul à la conférence que je donné hier sur le catéchisme catholique, comprennent qu'il ne s'agit pas là d'un vain mot. Il me semble qu'on est dans un combat gigantesque, au sens étymologique du terme, un combat de géants pour la tradition catholique. Les états d'âme d'une structure s'appelle-t-elle Fraternité Saint-Pidis, n'ont pas d'intérêt. Ce qui est essentiel, c'est de continuer ce combat par tous les moyens à sa disposition. Et c'est ce que j'entends faire à travers le Centre Saint-Paul, qui est donc un centre culturel que nous avons créé le 1er mai dernier. Il y a des petits tracts bleus là que je peux distribuer à l'entour. Il a été donc inauguré le 1er mai dernier. Centre culturel. Dans la culture chrétienne, évidemment, la liturgie est au premier plan. Donc même si ce n'est pas une paroisse, pas une paroisse rivale, pas une paroisse concurrente, il y a d'abord la messe. La messe, le dimanche à 9h, 11h, 19h, tous les jours à 19h, pour nous, c'est évidemment naturel. Il n'y a pas de culture chrétienne sans liturgie chrétienne. Et il me semble que plusieurs très bons auteurs, en particulier publiés chez Ad Solem, qui se sont exprimés à ce micro, ont beaucoup insisté sur cela récemment. Il faut le redire. Mais, bien entendu, au-delà de la liturgie, nous entendons proposer un certain nombre de cours et de conférences. Il y a d'abord, tous les mardis soirs, des conférences avec des invités extérieurs sur des sujets d'actualité. L'actualité religieuse est en ce moment, évidemment, extrêmement importante. Donc, nous avons eu une conférence de M. l'abbé Aulagnier sur la rencontre entre Mgr Fellé et le pape Benoît. Noix 16, oui, F-E-2-L-A-Y, je pense que ça se prononce comme ça. Nous avons eu ensuite hier cette conférence sur l'abrégé du catéchisme catholique. Mardi prochain, Michel de Gégère donnera une conférence sur la christianophobie.
Son lié est remarquable.
Et ça,
c'est remarquable de se remarquer.
Tous les auditeurs à venir l'entendre et à venir parler avec lui, parce que l'avantage, nous avons un local de 100 mètres carrés et les conférenciers sont très accessibles, chaque conférence se terminant d'ailleurs par un pot de l'amitié que nous partageons au sous-sol. N'hésitez pas à venir au Centre Saint-Paul, 12 rue Saint-Joseph, dans le 2e arrondissement, pour cette conférence de Michel de Gégère sur la christianophobie au quotidien. Le mardi suivant, 3 octobre je crois, ou si c'est le 2 vous me pardonnerez, monsieur l'abbé Barthes parlera, comme il sait le faire, avec beaucoup de documentation, de précision, de la doctrine liturgique du pape Benoît XVI. Et ça, je pense que c'est aussi très important au point où nous en sommes. Benoît XVI n'est pas homme à se contenter de petites formules toutes faites, jeter ça et là pour faire applaudir le bon peuple. C'est un intellectuel, il a une réflexion de fond et il estime qu'il a été élu pape pour mettre en œuvre, au moins en partie, sa théologie. Donc je crois que ce sera aussi très important. Je vous passe la suite de la liste, mais je vous donne rendez-vous absolument tous les mardis à 20h au Centre Saint-Paul pour entendre ces conférences. Il y a par ailleurs...
Le Centre Saint-Paul, c'est 12 rue Saint-Joseph, Paris 2e.
Voilà.
Commode.
Il y a deux saints, c'est très facile, hein. Saint-Paul et Saint-Joseph. Voilà.
C'est le Centre Saint-Paul, 12 rue Saint-Joseph, Paris 2e.
Saint-Joseph, c'est celui qui a la garde du dépôt, c'est-à-dire de l'enfant Jésus, et Saint-Paul, c'est celui qui le répand, qui le diffuse. Donc je trouve que c'est très complémentaire, si vous voulez. Il y aura également, à partir de dimanche prochain, et ça je voudrais en avertir les auditeurs qui nous font l'amitié de venir de temps en temps, mais qui ne sont pas réguliers, c'est tout à fait normal, enfin je veux dire chacun, je donnerai à partir de dimanche prochain un cycle de conférences sur l'évangile de Saint Jean. Donc il faut sanctifier le dimanche, je me dis qu'après tout, si certains veulent sanctifier le dimanche de cette façon, c'est possible. L'évangile de Saint Jean, c'est l'évangile qui est évidemment le plus riche du point de vue mystique, si on veut. En même temps, c'est celui qui est le plus précis du point de vue historique. C'est par exemple par l'évangile de Saint Jean qu'on sait que l'enseignement public du Christ a duré 3 ans. Les 3 évangiles synoptiques ne nous permettent pas de le dire. Bref, l'évangile de Saint-Jean est tout à fait passionnant, et l'étudier est jubilatoire. Je convie tous ceux veulent faire cet effort tous les dimanches que Dieu fait, à 16h30, pour un cycle d'initiation à l'évangile de Saint-Jean qui commence donc dimanche prochain. Et puis bien, il y aura d'autres cours et conférences, mais surtout des cours. Et je voudrais insister là-dessus. Ce sont des cours du soir, ce sont des cours qui sont donc fixés à des horaires accessibles, bien entendu, à des non-étudiants, mais qui peuvent aussi intéresser les étudiants. Aussi bien les cours de latin pour adultes, premier niveau débutant, puis il y a les redébutants aussi, ceux qui en ont fait un petit peu, puis qui ont un peu oublié, puis qui aimeraient en refaire. Je crois que ça fait pas de mal de faire un petit peu de latin pour parler la langue de l'Église et rentrer davantage dans sa sagesse, dans la beauté de sa sagesse. Donc latin pour adultes, c'est jeudi à 20h, enfin on peut multiplier, il y a le grec biblique, Je donnerai moi-même deux cours de philosophie, un cours de psychologie sur le désir de Thomas d'Aquin à Sigmund Freud et retour, et puis un cours de philosophie politique où certainement j'inviterai monsieur de Thieulois, s'il veut bien venir, sur les principes chrétiens en philosophie politique. Ce sera un commentaire littéral du De Regno de Saint Thomas d'Aquin.
Mais c'est tout à fait, c'est excellent.
Il n'y a pas de cours d'hébreu.
Donc ces cours sont le samedi matin.
D'hébreu public.
Non. Alors, j'aimerais bien qu'il y ait des cours d'hébreu. Et je vais vous dire, Serge, j'aimerais bien prendre des cours d'hébreu. Donc, si j'ai un professeur et quelques élèves, je m'inscrirai en tête de liste. Mais
faut trouver le professeur.
Voilà.
Le problème est là.
Dans le quartier, ça doit se trouver quand même.
Je voudrais souligner aussi, pour des gens qui cherchent un bon catéchisme, que nous proposons aussi une initiation à la foi catholique pour les enfants, sur trois niveaux, et que cette initiation a lieu le mercredi après-midi à 17h30. J'avoue que j'ai fait toute une consultation auprès des mères de famille pour savoir quelle était l'heure la plus commode, et nous sommes arrivés à ce créneau horaire de 17h30 à 18h30 toutes les semaines, tous les jours ouvrables en dehors des vacances scolaires. Encore une fois, si certains sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas soit à venir au centre Saint-Paul pour s'inscrire, soit à téléphoner, et ça peut être le plus simple, en laissant un message sur le répondeur au 01 40 26 41 78 01 40 26 41 78.
Alors je vois là un nom que je ne connaissais pas, parce que bon, l'abbé Aulagnier, l'abbé Bard, tellement ça, mais je vois l'abbé Guelfucci. Alors c'est encore à remercier de la fraternité sacerdotale.
Alors le pauvre abbé Guelfucci est un prêtre magnifique de zèle et d'enthousiasme. Malheureusement, son zèle et son enthousiasme l'ont conduit à dire un peu trop fort ce qu'il pensait tout bas. Et bien les autorités de la fraternité lui ont gentiment demandé d'aller voir ailleurs. Victoria vient de me passer un message que je voudrais commenter.
On va pas avoir beaucoup de temps. Serge,
je voulais dire bientôt ils vont pouvoir ajouter sur leur carte de visite fournisseur du centre Saint-Paul.
fournisseur
du centre Saint-Paul.
Ah voilà, c'est ça, oui. Tout à fait, oui. Oui, non, parce qu'il y a aussi l'abbé Tuilier, enfin, il y a beaucoup d'autres prêtres qui sont dans des situations difficiles parce que notre état-major s'est emballé.
Bon, alors, nous n'avons plus de temps. Un message et c'est tout. On n'a pas le temps. Non, je suis obligé de rendre à 7 heures.
À force de se jeter l'anathème, vous faites comme les royalistes, vous vous divisez au lieu de vous rassembler, ça ne demande pas de commentaires.
Non, moi, je suis contre tout anathème. C'est très important, parce que on n'est pas du tout justement des groupuscules, on a un combat de géants, comme je le disais tout à l'heure, qui est le combat pour la tradition, et je pense que tous ceux qui combattent de tout leur cœur pour traditionnaliser l'Église catholique, pour lui faire reprendre contact avec les formes pérennes de sa tradition, forme liturgique, forme théologique, forme catéchétique, tous ceux-là doivent bien entendu se retrouver et s'aimer un peu, en tout cas arrêter de se taper dessus.
Ce qui serait bien, c'est que dans votre centre gnostique...
Je sais pas, alors là, je vois pas trop, mais...
Qu'est-ce que ça, madame ? Vous fassiez une conférence à laquelle vous inviteriez votre cher, très cher ami Alain de Benoît,
eh ben voilà,
pour faire l'éloge, tous deux ensemble, du paganisme.
Ben, écoutez, moi, je n'ai jamais fait l'éloge du paganisme. Je m'honore de l'amitié d'Alain de Benoît, mais je dois dire que chaque fois que nous nous voyons, ce sont forcément des étincelles. Nous ne sommes absolument pas en accord. Je crois simplement qu'il est tout à fait possible de se rencontrer au-delà de ses idées. On peut très bien ne pas avoir les mêmes idées et avoir néanmoins une estime réciproque.
L'affection que post-mortem à Guillaume de Thieulois pour Maritain me semble du meilleur à loi.
Tout à fait. C'est ce que vous disiez tout à l'heure pour Maritain.
Cet auditeur aurait reproché au Christ de dîner avec les prostituées et les publicains.
Oui, ça c'est dans l'Évangile. Oui.
Ça vous arrange pas.
Oui, oui, oui. Non, c'est des choses un peu. Bon, alors, on va pas passer la soirée sur le commentaire de ça. Par contre, j'aimerais que vous nous disiez ce petit message. Enfin, c'est pas un message, c'est un communiqué.
La réunion de rentrée de Sensus Fidei a lieu samedi prochain 24 septembre à la salle de l'Asiem, 6 rue Albert de la Parent, Paris 7e, de 18h30 à 22h. La première partie de la réunion sera consacrée à des exposés et à un forum concernant l'évolution de la fraternité Saint-Pilis et les négociations, entre guillemets, avec Rome. Y prendront part, outre l'abbé Laguéry, venu spécialement de Bordeaux à cette occasion, les abbés Olanier de Tanoirne et Guelfucci.
Toujours les mêmes.
Voilà.
C'est un complot.
Verrons ensuite.
Il ne parlait pas d'un carteron, en tout cas.
Nous nous retrouverons ensuite dans un cocktail dînatoire qui permettra de prolonger les échanges de vues au gré de chacun. Cette réunion est réservée aux adhérents de Sensus Fidei Paris Province et de Sensus Fidei Bordeaux. Il sera néanmoins possible à cette occasion d'y faire acte de candidature et après agrément de participer directement à la réunion.
Voilà. C'est sérieux.
Ouais. Très bien. Bah, écoutez,
sous le bandeau alors.
Merci Guillaume de Tulloire. Bravo pour votre livre. Merci. L'absolu, Jacques Maritain entre mystique et politique, édition Gallimard. Merci, monsieur l'abbé de Tanoirne. Bravo pour votre centre Saint-Paul.
Merci, cher Daniel. Vous y êtes le bienvenu.
Tulloire a des choses très intéressantes à dire si vous l'invitez, évidemment.
Je crois savoir.
C'est dans le tuyau.
Mais pourquoi est-ce que vous ne mordez pas sur l'émission de Serge Lebrun?
Non, parce que maintenant, nous allons avoir.
Dans son dernier écrit, Jean-Paul II semble être revenu sur les dispositions antérieures en demandant une ouverture à notre Seigneur Jésus-Christ à tous les niveaux, donc à celui de l'État.
Bon, nous ne pouvons pas, j'ai pas le temps.
C'est pas un...
J'ai promis de laisser le micro à 7h, je suis un peu en retard à Cécile Adem, donc je vais lui laisser le micro. Et en attendant, on va passer sur un petit indicatif.
Fâché ou fatigué, en tout cas, il a filé comme un zèbre. Merci.
Vous avez donné l'exemple de l'exactitude.
Il avait clairement pas y touché, c'est tout.
Mais en tout cas, alors en plus, donc, je reprends le flambeau. Et je commence par une grande nouvelle, c'est que apparemment, sauf si c'était canular, mais je crois pas, il semblerait que le docteur François Planté se soit proposé pour donner des cours d'hébreu au centre Saint-Paul.
Ah ben, il est vraiment le bienvenu encore une fois, je m'inscris en tête de liste des élèves.
Moi aussi, en deuxième alors.
Comme on dit, nous fait une fleur avant que Madame Dem nous parle de
ça. Voilà, bravo pour la liaison, c'est magnifique, je n'en doutais pas. À vous, Cécilia.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs. Alors, j'ai un petit bonsoir un peu particulier à leur transmettre. Agnès, c'est un prénom, c'est le prénom d'une de nos dévouées téléphonistes. Vous savez à quel régime elles sont soumises, 400 téléphones qui sonnent à la fois, des gens qui les prennent parfois à partie. Elles sont toujours aimables, toujours patientes. Et Agnès était l'une d'elles, je ne sais pas si elle continuera, parce qu'elle vient de s'installer en Poitou, à 10 km de chez moi, et elle transmet un grand bonsoir aux auditeurs par mon canal. Je crois qu'elle ne nous écoute pas encore, parce que je crois que Internet n'est pas encore rebranché chez elle, mais je transmets quand même. Alors, on va commencer par quelques petites annonces. On va faire un petit clin d'œil.
Elle est sur les bords de la Loire, avec les garçons.
Non, la Gartempe. Elle a une maison au bord de la Gartempe. Voilà, notre ami Vincent Berteret va donner sa dernière pérégrination, on peut appeler ça comme ça.
Pourquoi
vous qui
dernière,
êtes un fanatique de l'année, de l'année. Le 24 septembre, ensuite on peut le fréquenter, si je puis dire, en groupe, si on constitue un groupe. Alors je lis très rapidement, mais peut-être vous pouvez parler, dire quelques mots sur ce qu'il fait, parce que c'est,
oh, bah, c'est extraordinaire, tout simplement, je l'ai reçu plusieurs fois. C'est
loin des discours et opinions habituelles sur ce qu'est Versailles, son point de vue n'appartient à aucune école ou idéologie. Il est rigoureux, solidement étayé, mais il est d'ailleurs. Et c'est la FNAC qui écrit ça.
Ah oui, hein, c'est bien.
Même. Alors, on s'adresse à AMDG, AMDG, 4 rue Salomon-Reynac, 4 rue Salomon-Reynac, 7800 Saint-Germain-en-Laye.
Il faut vraiment participer à une visite.
Je crois qu'il faut pas rater ça. Regardez-moi, j'ai une invitation perpétuelle. Vous vous rendez compte?
Ah oui, vous avez de la chance. Parce que c'est vraiment un moment d'intelligence, de drôlerie, de culture.
Alors, ensuite...
Vous avez fait ça, vous marquez?
Ah, ça vaut la peine.
C'est vraiment...
Au potager du roi sur lequel nous allons revenir, et j'ai le plaisir d'accueillir son responsable ce soir, Manuel Pluvinage, que tout le monde connaît maintenant à Radio Courtoisie.
Bonsoir.
Il se déroule actuellement une exposition qui s'intitule...
L'épopée des courges, comment les courges sont arrivées en Europe et ont été adoptées par les différents pays.
Et alors, pour clore cette exposition, les 8 et 9 octobre prochains, on a aussi une manifestation qui annuelle les saveurs du potager du roi, qui inaugure plus ou moins la semaine du goût.
C'est juste le week-end avant la semaine du goût. La semaine du goût,
alors, on y reviendra.
Je peux poser une question?
Je vous en prie, vous
êtes là pour ça. Pourquoi, quand vous avez dit l'épopée des courges, on s'est regardé avec le marquis, on a éclaté. Pourquoi les courges font-elles rire? Il y a des fruits drôles et des fruits pas drôles. Par exemple, banane, c'est un fruit drôle.
Parce qu'on en fait des gourdes, non? Des courges.
Oui, mais il y a des fruits. C'est quand même curieux.
Oui, je ne sais pas.
Ça fait pas rire. Et non. Une poire, bon, tout de suite.
La poire, c'est tout juste.
Oui, si, ça fait rire. Les courges, ben oui.
Écoutez, je ne sais pas, on cherchera et on vous renseignera un peu plus tard. Alors, j'annonce tout de suite, parce que je ne sais pas quand je reviens, je ne sais pas si je reviendrai avant, les journées de Courson, les journées des plantes, et ce sont les journées d'automne qui ont lieu cette année, les 14, 15 et 16 octobre. Je ne vais pas énumérer tout ce qui s'y passe, parce qu'il s'y passe toujours beaucoup de choses. Je vais simplement signaler que Jean-Noël Burt, qui est un ingénieur horticole diplômé de Versailles, d'ailleurs, je crois, et qui est aussi vice-président de la Société nationale d'horticulture de France, viendra parler de son expédition au Brésil, dans le cadre de l'année du Brésil. Il est allé faire là-bas une expédition pour essayer de sauver la Mata Atlantica. C'est l'une des dernières grandes forêts primaires du monde. C'est la plus grande du Brésil après la forêt amazonienne, et elle est particulière parce que la diversité de sa végétation est plus importante. C'est donc lui qui inaugurera la série de conférences le 14 ou le 15, je donnerai le programme tout à l'heure, à Courson. Les deux grands thèmes de cette année, de cette édition, si on peut dire, sont les écorces, et j'aime beaucoup la façon dont on en parle sur leur document, belle peau, la belle peau des arbres.
Ah,
alors,
bien.
Naturellement, qui viendra parler des écorces? Alain Baraton, que Radio Courtoisie connaît bien, avec son livre que nous avions présenté il y a quelques années. Il sera là le samedi, sur les écorces. Voilà. Il reviendra bientôt avec un autre. Et puis alors, quelque chose de beaucoup plus savant, calcaire, point d'interrogation, point d'exclamation. Il faut qu'on s'occupe de la nature de son terrain quand on veut être un bon jardinier. Ce n'est pas mon cas, mais Manuel Pluvinage devrait certainement pouvoir nous dire beaucoup de choses là-dessus. Et ce thème sera celui, donc l'un de ceux de l'automne et aussi du printemps prochain 2006. Alors pour Courson, je ne vais pas donner ni toutes les dates, ni tous les événements, ni tous les prix, parce que c'est extrêmement compliqué. Je dis seulement que ça commence le vendredi 14 octobre à 14h jusqu'à 18h. Ensuite, le samedi 15 et dimanche 16 octobre de 10h à 18h. Le vendredi matin étant réservé aux professionnels. Alors, on peut se renseigner. Alors, les prix sont absolument incroyables, parce que ça, selon qu'on est tout seul, qu'on est en groupe, qu'on a des réductions de ceci ou de cela, bon, je peux pas perdre mon temps à les énumérer.
Pour les kids, de
toute
façon.
On téléphone au 01... 64 58 90 12, 01 64 58 90 12, et puis on a un courriel, domaine de Courson, tout tenu, wanadoo.fr. Et on peut aussi se renseigner sur leur site internet coursondom.com. Ça vaut quand même le déplacement, n'est-ce pas?
Les journées de Courson sont vraiment un événement annuel extrêmement important pour tous les amateurs de jardin depuis 25 ans.
Alors, et puis en plus, ils sont très sympathiques.
Oui, non. Le potager du roi a un stand régulièrement, ils sont régulièrement invités.
Alors, j'ai deux livres, j'en ai quatre en fait, deux que je n'ai pas apportés parce que Gallimard vient de créer une nouvelle collection qui est vraiment très, très jolie, très précieuse, qui s'intitule Carré, avec, au pluriel, Carré de jardin. Et les trois premiers sont des petits livres 21 sur 21, cartonnés, joliment illustrés d'aquarelles. Chaque jardin est confié à un artiste différent. Et nous en parlons tout à l'heure avec Manuel Plusvinage. On sent très bien la patte différence. Par exemple, pour le jardin de Villandry, l'artiste a une vision beaucoup plus sombre que les deux autres, et vous dites que ça n'est pas tout à fait Villandry non plus.
C'est un peu inattendu par rapport au caractère assez précieux, la dentelle de Villandry.
La palette n'est pas la même pour chacun d'entre eux.
Voilà, c'est pas ce qu'on attend, mais bon, c'est le choix de l'artiste, et chaque artiste a à chaque fois travaillé pendant, nous sur le potager du roi, pendant un an.
J'imagine, parce que c'est vraiment saison par saison.
Tout à fait, c'est un travail de longue haleine.
Alors, ils sont, la collection est dirigée par Dominique
Legrain,
qui fait en général une introduction. Donc, il y a les aquarelles de chaque artiste. Alors, je vais dire que pour le potager du roi, c'est Vincent Bruno, que nous pensions avoir ce soir, mais comme il vit en Italie, ben, il n'est pas là. Et Notre-Dame d'Orsan, les jardins de Notre-Dame d'Orsan dont nous avions déjà parlé, sont illustrés par Frédéric Moirot, et le jardin de Villandry par Daniel Claverol. Ils coûtent chacun 18 euros. C'est vraiment très abordable, je trouve comme
un très beau cadeau d'automne.
Alors, nous allons tout de suite donc arriver au potager du roi. On me reproche souvent d'avoir un ton un peu particulier quand je parle du potager du roi. Il paraît que j'ai une tendresse particulière pour cet endroit.
On l'a tous. Très bien. Je trouve ça merveilleux endroit.
Ça me fait plaisir.
Joli souvenir d'enfance en plus.
Alors, ce soir, nous accueillons donc Manuel Plusvinage, qui est le responsable du potager du roi, que nous avons déjà accueilli. Il peut nous reparler rapidement de son potager pour les auditeurs qui ne sauraient pas de quoi il s'agit. Ils ne doivent pas être très nombreux.
Voilà, très rapidement, le potager du roi, donc créé à la demande de Louis XIV pour nourrir non pas toute la cour, mais la table royale en produits exceptionnels, donc construit dans l'immédiate proximité du château, même carrément au cœur du quartier Saint-Louis, juste en bordure de la cathédrale Saint-Louis. Et ce potager, donc, qui depuis 325 ans, produit des fruits et légumes exceptionnels, pour les tables royales, pour les tables présidentielles et aujourd'hui pour tous les publics. Et on y présente à la fois une grande diversité de cultures, de variétés, de 150 variétés de pommes, 150 variétés de poires, de plus de 70 espèces de légumes, bon, des choses tout à fait extraordinaires.
Et que vous vendez à des prix très raisonnables en plus.
Au prix du marché, on va dire, on les vend sur place au fur et à mesure des saisons. Alors c'est vrai que là, c'est une erreur historique, puisque Louis XIV, roi soleil, cherchait justement à avoir des choses en dehors de la saison. Il était le premier consommateur moderne.
Oui, mais Louis XIV ne cherchait pas à plaire à Jean-Pierre Coff. Tandis que là, c'est très très bien de coller aux saisons quand même.
C'est quand même mieux. C'est quand même plus
ça a deux avantages. Effectivement, d'abord, c'est à la mode. Et puis surtout, c'est beaucoup plus simple.
Voilà.
Parce que produire des asperges au mois de décembre, c'était vraiment beaucoup de difficultés. Alors qu'attendre qu'elles viennent au mois de mai, ben, finalement.
Puis vous seriez obligé de les vendre à prix fou.
Oui, à un moment où les visiteurs ne sont pas là. Donc c'est vrai que. On préfère pas.
Alors, il vient de se passer des choses au potager du roi. La fin de semaine dernière, non, toute la semaine dernière d'ailleurs.
La première édition d'un salon qui s'appelait Versailles Côté Jardin, avec un volet à la fois professionnel autour de la pièce aux dés suisses et à l'orangerie, et un volet grand public qui a eu lieu vendredi, samedi, dimanche. avec un bilan, on va dire, mitigé vendredi, samedi, puisque le temps n'était pas de la partie.
Voilà.
Et puis quelque chose de mieux dimanche après-midi avec un grand soleil et donc
bien.
Des visiteurs plus nombreux.
Alors j'ai rencontré moi un ami de Radio Courtoisie, la personne qui a créé les Jardins du Roi, qui fait les caisses de Rangers, qui m'a dit Radio Courtoisie, je viens quand vous voulez. Alors on verra ça. Le potager du roi, donc illustré par Vincent Bruno chez Gallimard et avec les commentaires des aquarelles sont de Manuel Pluvinage. Alors est-ce qu'on le feuillette c'est un petit peu saison par saison?
C'est à la fois saison par saison et puis surtout un livre très vivant puisque autant souvent les photos des jardins de Versailles, y compris du potager du roi, sont des photos assez statiques où on évacue à la fois le touriste, le visiteur, mais également le jardinier.
Alors justement, je voulais dire, on
voit le jardinier, on le nomme. On le nomme, on le reconnaît, jardiniers aujourd'hui se sont retrouvés dans les dessins et c'est vraiment très agréable de redonner un caractère
normal,
vivant,
c'est...
y compris les touristes. Hein, on a à la fin, sur notre fête annuelle d'automne, les saveurs du potager du roi, on a une ou deux aquarelles sur cette fête d'automne avec les gens venant déguster. Ça fait partie de la vie du jardin.
Parce que vous invitez des professionnels de la restauration qui mettent vos produits dans les assiettes, en quelque sorte.
Alors, c'est à la fois des professionnels qui amènent leurs propres produits, qui sont souvent des produits en résonance avec les nôtres, pour tout un tas de raisons, soit parce que, par exemple, ce sont des lycées agricoles, puisque nous sommes un établissement d'enseignement agricole, l'École nationale supérieure du paysage, donc il est logique que des lycées agricoles sont invités, comme la bergerie nationale également, la ferme de Grignon. Là, cette année, nous invitons également, puisque notre exposition est sur le thème des courges, toute une série de collectionneurs de courges et de cuisiniers autour des courges. On aura plus de 300 variétés de courges différentes présentes lors des 8 et 9 octobre. Là, aujourd'hui, on n'en a qu'une quarantaine dans l'exposition. Et puis, donc, différentes manières de les accommoder, avec en particulier le restaurant Pomme Z qui se trouve à Paris, Boulevard Haussmann, qui est spécialisé sur la pomme, mais qui là voudra bien faire quelques exceptions pour travailler avec les courges.
Alors, pour les visiteurs du potager du roi, je conseille très fortement, très vivement d'aller au fond du potager, tout à fait au fond, visiter les carrés réservés aux étudiants de l'École nationale supérieure du paysage, c'est ça ?
Tout à fait.
C'est plein d'humour,
c'est un très fort contraste avec effectivement les carrés.
On se demande où on tombe tout d'un coup, mais après on comprend.
C'est complètement ludique aussi.
Ah oui.
Il y a le décalage avec le côté bien aligné du potager.
C'est absolument délicieux.
C'est quelque chose de tout à fait différent. Les élèves y jardinent pendant 3 années consécutives, encadrés en général par un jardinier extérieur à l'école. Et effectivement, c'est un tout autre esprit. On n'est plus dans l'esprit productif, on n'est plus dans l'esprit d'alignement, de propreté. Dans un autre jardinage. Et donc.
Dans le rêve.
Beaucoup de clins d'œil, beaucoup de...
Et j'en ai rencontré un l'année dernière avec un grand chapeau de paille. Je crois que c'est vous qui m'avez dit, ça doit être Mathurin, ou il avait un prénom de ce genre. Et il était très disert, très charmant. Et ça c'est une autre façon de voir aussi le potager du roi.
Le potager du roi accueille de toute façon à la fois, donc bien sûr, ses jardiniers professionnels, ses élèves, mais également une association de retraités bénévoles pour entretenir la rocaille, une association d'apiculteurs, des anciens de cour qui viennent cultiver des légumes extraordinaires. C'est un peu un lieu de rencontre entre différents jardiniers, avec parfois quelques difficultés, puisque chacun a sa manière de faire et
ça, c'est
un petit coup de vent sur un traitement.
Des gens qui ne taillent pas.
Voilà, ça. Les différentes écoles.
Alors, à propos de taille, j'ai vu une forme que j'ignorais. Il faut dire que je ne connais pas grand-chose dans ce domaine. Les poiriers en forme de vase Médicis.
Alors, il existe plus de 300 formes différentes d'arbres fruitiers. C'est ce que le jardinier en chef a recensé dans une encyclopédie des formes fruitières, donc publiée chez Actes Sud. Et une de ces formes, qui est un peu un chef-d'œuvre pour le jardinier, c'est pas une forme productive en elle-même, ça s'appelle effectivement le vase Médicis. Mais il existe des formes encore plus compliquées en parapluie, en candélabre. On a également des photos de palmettes représentant Napoléon, marquant Napoléon III ou Eugénie, et parfois même avec un seul arbre.
Et vous dites que certains poiriers, par exemple, qui ont 300 ans, produisent encore.
Alors non, les nôtres les plus vieux ont 130 ans.
Ah, 130 ans, j'exagère.
Poiriers de 300 ans. On peut en trouver dans la nature ou dans des jardins sauvages des poiriers qui ont plus de 130 ans, 2 siècles, et qui n'ont pas été palissés. Mais le fait de les palisser n'accroît pas leur longévité, bien au contraire. Ça a plutôt tendance à un moment à les brimer et du coup, ils ont des réactions.
Donc, un très très joli livre à s'offrir pour la rentrée.
Il est ravissant.
C'est ravissant.
Bon, c'est un bonheur parce que le dessinateur, l'aquariste s'est dessiné.
Il a passé là son année. On va de l'hiver à l'autre hiver. Et alors,
on a l'impression que c'est fait. Vous savez, c'est des choses qui sont faites pour la famille, comme ça.
Oui, oui, un petit peu. Il a dû entrer dans votre cercle. Il a dû vous côtoyer pendant très longtemps.
Pendant un an, alors peut-être pas 365 jours, mais il est venu régulièrement.
Oui, ça se sent, puisque c'est saison par saison.
C'est très mélangé. Il y a des grandes vues, des jardins, super. Puis alors, il y a un petit croquis qui montre un
jardin. Voilà, un petit détail là.
Qui est en position, à mon avis, dangereuse pour ses rangs. Il faudra lui dire.
Il y en a un dont on signale qu'il est sur un échafaudage instable. Là, il doit avoir l'habitude de grimper sur n'importe quoi.
Non, c'est bon.
Et puis alors, il se termine par deux pages pratiques. On dit tout ce qu'on peut voir au fil des mois au potager, c'est-à-dire que les choses se succèdent. On signale aussi une chose que j'aime beaucoup, c'est que finalement, c'est encore l'hiver qui est la plus belle saison pour bien voir sa structure. Moi, j'adore les jardins l'hiver. Bon, ça, c'est... Et puis, tous les renseignements pour y accéder, les prix d'entrée, etc. Et puis, un petit mot de l'école du paysage, peut-être.
Oui, alors l'école du paysage qui forme donc ce qu'on appelle les paysagistes des PLG, diplômés par le gouvernement, et qui aujourd'hui sont responsables à la fois de la conception, de la création de grands parcs urbains comme le parc André Citroën, mais également d'aménagement d'infrastructures lorsqu'il faut faire passer une autoroute aujourd'hui dans le paysage. On ne le fait plus de la même manière qu'il y a 30 ans. Et merci. Quand on voit par exemple ce qui s'est fait autour du TGV Méditerranée, on a des gares qui sont maintenant un peu comme mettait le viaduc de Garabit, des vrais monuments qui magnifient le paysage plutôt que des cicatrices.
Il y a des progrès dans ce domaine-là. Dans un tout autre, j'ai été chercher l'un de mes petits-fils au petit aéroport de Poitiers-Biard. J'étais ravie. Bon, c'est un hangar, c'est minuscule. Mais vous verriez, il y a trois canaux qu'on franchit par des ponts et plein de plantes d'eau qui étaient fleuries à l'époque. J'étais sidérée. C'est tellement mieux qu'un bitume et ça n'empêche pas qu'on puisse garer de nombreuses voitures tout à côté.
Souvent, ce qu'on dit pour le paysagiste, c'est que sur un chantier de grande infrastructure, c'est 1% des budgets, mais c'est plus de 20% ou 30% de l'effet final.
Mais oui,
donc c'est dommage de ne pas le faire avec plus de soins et plus de...
Ça devrait se répandre. Enfin bon, alors espérons.
C'est une profession émergente.
Très bien. Alors, un deuxième ouvrage. Alors, c'est un catalogue. C'est le catalogue de votre exposition.
Donc, c'est le catalogue de l'exposition.
Mais c'est vraiment un ouvrage à part entière. Alors, l'épopée des courges au potager du roi, avec un sous-titre, cultures et consommations en Europe.
Alors, effectivement, c'était un catalogue qui réunit les contributions de plusieurs scientifiques d'origine américaine, israélienne, allemande, anglaise.
Hongroise
également, puisque, en fait, ce qu'on appelle les courges au sens strict, sont d'origine américaine, sont donc toutes arrivées avec Christophe Colomb. Arrivées en Europe, chaque pays, chaque région, chaque village a sélectionné une variété de courges pour en faire un usage particulier. Donc on a plus d'une vingtaine de variétés en France qui dépendent à chaque fois d'une zone différente, la plus connue étant le potiron rouge vif des Tempes, mais j'irais à l'extrême opposé, en Hongrie, on a adopté les courges pour en consommer les pépins. On consomme les pépins soit tel quel, ou de l'huile de pépins de courge, donc ce qui était d'ailleurs l'usage des Indiens d'Amérique à l'origine, c'était pas du tout pour la chair qui était extrêmement amère, mais pour les graines qui étaient très riches.
Manger un apéritif.
Voilà, manger un apéritif. Il existe même des variétés de graines qui n'ont pas des variétés de courges qui n'ont pas d'écorce autour de la graine. Bon, on parle souvent du voyage des plantes. Et là, ce qu'on essaye d'exposer au potager du roi, c'est comment les plantes, une fois qu'elles ont voyagé, sont modifiées, sont travaillées par les communautés de cultivateurs.
Donc, c'est un ouvrage dont on va donner les coordonnées, si on peut dire, pour qu'on puisse se le procurer, qu'on peut acheter tout à fait indépendamment. Vous allez dire d'ailleurs où on le trouve. Est-ce qu'on le trouve en librairie?
Il n'est pas forcément très, très diffusé, puisqu'on a travaillé avec un petit éditeur, mais donc on peut le demander chez nous, mais également dans toutes les librairies spécialisées jardins, la librairie du patrimoine du jardin à Paris, place de la Concorde, ou la librairie verte.
Mais c'est en même temps le catalogue de l'exposition qui se déroule actuellement.
Pour faire cette exposition, il y a eu effectivement un certain nombre de recherches, et comme on s'est aperçu que les panneaux qui contenaient plus de 500 caractères étaient quand même assez difficiles.
C'est long à lire.
Voilà, et que les contributions faisaient plus de 40 000 caractères, on s'est dit, il faut les réunir dans un catalogue qui est aussi splendidement illustré, avec des aquarelles, les dessins aquarellés d'un Versaillais, donc jardinier botaniste de la fin du 18e siècle, Antoine-Nicolas Duchesne, qui a travaillé sur l'histoire justement sur la génétique des courges, qui a été le premier à faire des croisements entre les courges pour essayer de voir, de mettre un peu d'ordre dans la classification, dans l'histoire génétique des courges.
Il y a aussi les reproductions de quelques très belles natures mortes du 17e, qui sont très belles. Beaucoup de croquis. Il y a très peu de photos, finalement. C'est vraiment un bel ouvrage.
Quelques photos de potirons bleus de Hongrie, prises en Serbie quand même, puisque les plantes n'ont pas de frontières.
Et puis alors, il a le mérite d'être bilingue. Il a été traduit en anglais par...
Mon collaborateur Antoine Jacobson, qui effectivement a pris soin, alors soit de traduire en anglais, soit d'avoir des contributions en anglais qu'il a traduit en français.
Qu'il a traduit en français. Et qui a lui-même une contribution d'ailleurs dans l'ouvrage.
Oui. Donc notre souhait au Potager du Roi, c'est d'avoir une vulgarisation scientifique de haut niveau autour de ces questions de botanique, d'horticulture.
Et l'introduction est de vous ?
Alors j'ai une introduction de moi, une introduction de Dominique Planchenot, le directeur du BRG, oui. Le Bureau des ressources génétiques, qui est en charge au niveau français.
Je rappelle combien il détestait la soupe au potiron quand il était enfant, parce qu'il n'aimait ni le potiron ni le lait, et j'avoue que je suis un peu comme lui. À l'époque, c'était la même chose. Donc là, alors on répète le titre,
l'épopée
des courges.
Potager du Roi, l'épopée des courges.
Qu'on peut donc trouver au Potager du Roi, la petite boutique du Potager du Roi, ou alors qu'on peut demander dans les librairies spécialisées. Ça coûte, je crois, 19 euros, ce qui n'est pas cher étant donné la qualité du papier, et des illustrations et des textes.
Et là, il y a la recette de la soupe. Et
alors, il y a plein, oui,
ravioli,
oui.
Truffé.
Il y a un certain nombre de recettes aussi.
Très mauvais, ça, quand même.
On nous demande où peut-on trouver du pâtisson?
Alors du pâtisson, on en trouve au Potager du Roi.
Voilà.
C'est vrai que au nord de la Loire, c'est pas une courge qui est couramment cultivée. C'est pas forcément là effectivement la plus demandée. Autant le pâtisson par exemple est très demandé, maintenant on en trouve de manière assez courante, autant le potimarron on le trouve couramment, autant le pâtisson et
pas le nom, mais on en trouve du côté de la Madeleine.
Ouais. Moi j'ai un endroit.
Il faut traverser la rue.
J'ai un endroit pour les gens qui se promèneraient par là, le 3 octobre prochain, à Lautier, c'est à 5 km de Chevigny, il y a la fête des potirons, et moi je vais chaque année faire ma provision de potirons pour l'année. Alors c'est pour la décoration plus que pour la cuisine, mais enfin. Et ça coûte. Très bon marché. Vous faites un grand, grand, grand marché. Vous dites à la dame combien je dois. Vous dites, c'est en avoir pour 40 euros. 5 euros, madame. C'est merveilleux.
Et en prime, vous avez même une carte des régions administratives de la Hongrie.
Oui.
C'est un livre d'espionnage.
Dans un livre d'épopée des côtes, c'est quand même intéressant.
Alors, on répète on rappelle les dates exactes de
l'exposition. Donc, il dure jusqu'au 9 octobre. Tous les jours de 10h à 18h. Pas d'interruption, pas de jours de fermeture.
Entrée en face de la cathédrale Saint-Louis.
Exactement,
c'est très facile
depuis la gare Versailles-Rive Gauche. Et notre grand événement, donc, à l'automne, à la fin de l'exposition, les 8 et 9 octobre, les saveurs du potager du roi, qui permettent de voir des collectionneurs, des gastronomes, et de visiter le potager avec les jardiniers.
Eh bien oui, je réponds à ce monsieur,
oui,
qui, que Agnès est effectivement venue s'installer à Saint-Savin, donc il pourra la rencontrer puisqu'il a une maison à Saint-Savin, c'est merveilleux. On va coloniser Saint-Savin avec le Poitou, avec Radio Courtoisie.
Un réduit courtois à Saint-Savin.
Avant que les Anglais n'achètent tout, il faut se presser. Et avez-vous encore quelques petites choses à nous dire sur vos projets?
Ah bah écoutez, les projets, pour l'année prochaine, sont oui, l'hiver. Oh,
seulement de Noël au Nouvel An.
Oui, alors la fermeture officielle est d'une semaine, effectivement, entre Noël et le jour de l'An. Et en hiver, on reste ouvert même par les jours de neige, à la différence d'autres jardins qui ont peur des chutes, etc. Nous restons ouverts en semaine, puisque effectivement, le week-end, la fréquentation n'est pas.
Ça, c'est courageux, parce que le parc de Versailles, lui, ferme, ce qui est une catastrophe.
Ce qui est dommage, parce que c'est le moment le plus beau. Vraiment... Et donc, nos projets pour l'année prochaine, une exposition probablement sur les pommes de terre au printemps, sur les pommes de terre primeur, Versailles s'impose, et une autre exposition à l'automne autour des pommes marquées, vous vous souvenez peut-être des pommes marquées de l'année dernière, donc sur un thème peut-être un peu plus particulier, propre au XVIIIe siècle, donc qui devrait être les pommes libertines.
Ah.
Vous aviez fait aussi une exposition sur les citrouilles, sur les courges.
Oui, sur le marquage des citrouilles, qui étaient des citrouilles gravées, qui étaient très très belles. Et qui, d'ailleurs, donc l'artiste François Jolivet, donc qui avait travaillé chez nous il y a 2 ans, a travaillé maintenant à Baudouvin, près de Toulon, et travaille dans d'autres sites. Peut-être qu'un jour nous referons quelque chose avec elle.
Connaissez-vous le livre de Gibaud, Histoire des légumes de 1912? J'avoue mon ignorance, mais je ferai des recherches. Ou alors peut-être que cette personne peut nous...
Ça fait partie effectivement de la bibliographie classique. Elle peut le trouver à la Société nationale d'horticulture de France, à la bibliothèque.
Bon. Oui, qui est très riche. Hein, on peut vraiment. Je crois que vous avez aussi un message, non? C'est pour Serge.
Non, c'est un message pour.
Pardon. Oh, excusez-moi. Je pensais que c'était pour vous. Oui. Alors, ce livre, donc, à la société de. Alors, 84 rue de Grenelle. Et là aussi, on trouve l'adresse partout. Et la bibliothèque est très très bien fournie. Eh bien, écoutez, Serge, nous allons vous remercier de votre accueil.
Écoutez, c'est un immense plaisir de vous voir monter de votre lointaine province.
Merci.
Et surtout quand vous recevez M. Pluvinage, qui est l'image du bonheur.
Ah oui, c'est vrai.
C'est l'homme heureux, par excellence.
Ça fait un tel plaisir de voir un homme qui fait un métier qu'il aime. Ça se voit tellement qu'il irradie littéralement le bonheur de vivre. Et ça, c'est un grand plaisir que vous nous faites.
Je règne parmi les courges.
Pour cette année, pas uniquement. Vous avez aussi.
C'est le soleil voilà. Dans le potager du roi.
À une certaine. Maintenant, ça s'amenuise un peu, mais vous avez une période où vous avez des allées fleuries magnifiques, là.
Oui, effectivement,
qui sont étiquetées en plus. Alors, c'est très précieux, parce que quand on voit quelque chose qui vous plaît, on peut relever. Heureusement, on a du mal à le trouver dans les jardineries.
Relever sans emmener les étiquettes, c'est toute la difficulté.
Ah non, noter sur un carnet. Bien.
Nous voilà rendus à la fin de cette promenade dans le jardin de Versailles. Merci Monsieur Pluvinage, merci Cécilia, et nous reprenons l'antenne dans quelques minutes. Entendu Franck et Victoria?
Non, pas du tout.
Ben voilà, vous n'écoutez pas. Alors naturellement, vous devriez en prendre de la graine. Ça c'est une annonce, c'est carré, ça c'est.
Oui, mais faut varier un
c'est
peu les plaisirs.
C'est pas les fantaisies où je te machine le truc, je te mets du thon,
Il faut varier les plaisirs.
Vieil Odéon
et compagnie. On l'entend tellement souvent. Alors moi, c'est la version vieil Odéon. Vous aurez une version renforcée la semaine prochaine ou tout à l'heure. Tiens,
bien autour de cette table.
Si j'ai le temps.
Hein oui, je vous connais, vous êtes capable
si
de me préparer.
Si j'ai le temps.
Autour de cette table, monsieur l'abbé Tanoine, qui est resté avec nous parce que je lui ai demandé. Il n'avait pas de raison particulière, mais je l'aime bien, voir ça.
Ben merci,
c'est l'avoir. Puis en plus, voilà. Puis je pense qu'il pourra intervenir. Ça nous permettra de rappeler que le Centre Saint-Paul organise des tas de choses passionnantes, dont des cours d'hébreu, des cours de latin. Je vais peut-être me mettre au latin pour adultes. Parce que
Pourquoi vous êtes Ah, mais ça, c'est un bonheur, hein.
Ah, mais je sais, mais.
Faire du latin, c'est vraiment un bonheur. Et contrairement
comme on fait
à, une idée préconçue, le latin est une langue simple.
Ah bah oui.
Parce que c'est une langue extrêmement logique et architecturée.
La preuve, c'est que j'ai eu 16 au bac, il faut que ça soit simple quand même.
La morphologie latine, en 3 mois, et puis...
Ouais. Ouais. Jusqu'au bac. Comment ?
Vous êtes allé jusqu'au bac ?
Non, mais moi, c'était le premier. C'était à l'époque où il y avait 2 bacs. Je parle du premier.
Oui, c'est vrai.
Le deuxième, on n'en parle même pas. Bon, donc vous avez...
J'ai 2 bacs, mais sur mon évier, c'est tout.
Oui, mais vous étiez un garçon mal élevé. Non, pas mal élevé, mais indiscipliné.
Oui,
et,
ça, c'est connu.
Et paresseux. J'ai vu vos
états de service.
Donc, le marquis. Pierre-Marie, on va en parler tout de suite. Michel Delière, qui est un éditorialiste au Libre Journal et qui est un homme qui est partisan du retour à la Terre et qui va nous donner, avec un autre invité qui s'appelle Monsieur De Grémont, toutes les raisons qu'on a de retourner à la Terre, c'est-à-dire dessus, parce que de toute façon, on finira tous par y retourner, mais là, il s'agit de retourner à la Terre en tant que cultivateur et non pas en tant que fertilisant. Voilà. Et puis, comme je le disais, mon ami Pierre-Marie, parce que c'est la rentrée. Vous savez que tous les ans, il y a une rentrée. Et là, pour moi, c'est la rentrée, début octobre, enfin, on arrive là. Et au moment de la rentrée, on parle de classe. Or, Pierre-Marie est professeur, et professeur de piano, comme je le dis toujours, non pas sans tabouret, parce que ça, mais sans solfège. Donc, c'est quelqu'un qui a inventé une méthode qui est absolument extraordinaire, parce qu'en quatre leçons, on commence à jouer la mère.
Oui, c'est vrai.
La cinquième leçon, on joue la mère. La sixième leçon, on joue la mère. La septième leçon, votre femme vous dit, bon, écoute, ça commence à bien faire, hein. Donc, on pourrait peut-être passer à autre chose. Alors, on passe à autre chose. On joue, qu'est-ce qu'on joue, la septième leçon?
Oh là là, on joue les feuilles mortes, on joue tout le répertoire de Charles Trenet, on peut jouer tout.
Et on s'amuse comme un fou.
Et on s'amuse comme un fou.
Oh non, les voisins, moins, mais enfin, non, je me blague, c'est pas vrai. Alors, donc, ce professeur va nous exposer sa méthode. Alors, c'est pas une méthode pour jouer Debussy ou...
Non.
La mère, c'est pas la mère de Debussy, c'est la mère de Trenet, bien sûr. Donc, c'est pas une méthode pour apprendre Debussy, ni pour jouer... on va pas être Paderewski, hein. Mais on peut vraiment bien s'amuser,
oui,
avec
vrai,
un piano. Alors, comment ça... Comme dit l'autre, comment ça marche?
C'est très simple. D'abord, à la base... Il y a 12 tonalités sur le piano en montant et 12 en descendant. Ça fait 24. En classique, on joue dans n'importe quelle tonalité. Moi, j'apprends à jouer dans 3 tonalités. Et la première, qui dure 2 mois pour bien se mettre dedans, c'est en do. Et en do, il n'y a pas de touche noire. Il n'y a pas de bémol.
Quel beau, alors, quelle belle musique.
Non, mais c'est vrai. Alors, bon... Maintenant, je commence avec le répertoire de ce qu'on appelle dans le métier l'anatole, c'est-à-dire les 4 accords, les 4 accords de do, qui sont do, la mineur, ré mineur, sol septième. Et là-dessus, on peut jouer des dizaines et des dizaines de morceaux très simplement, voilà. Alors, à la seconde, quelquefois la première, mais à la seconde leçon, l'élève a compris et commence à jouer la mère, il commence à jouer tout le répertoire, le répertoire de traîner pendant 2 ou 3 semaines. Et après, on commence à jouer les feuilles mortes, on commence à jouer... voilà. Et c'est extrêmement simple, et ça permet à beaucoup de gens qui sont dégoûtés de la méthode classique, des restrictions qu'il y a, des tonalités, tous ces gens qui ont abandonné la musique, ils y reviennent avec ma méthode, parce que elle est extrêmement simple, elle est déposée à la SACEM et elle est protégée et elle existe depuis 10 ans, voilà.
Alors, on a reçu à ce micro il y a un an ou deux, je ne sais plus, des élèves. Et alors, c'est vrai qu'il y a eu des résultats quand même assez étonnants. Il y a des gens qui jouaient des choses tout à fait remarquables. Bon, il y a aussi des gens qui jouent c'est un petit peu moins réussi. Et ce qui est très marrant aussi, c'est que assez vite, on peut improviser sur la base des accords
absolument
qu'on a appris. Mmh. On arrive, bon, avec la main gauche, on fait toujours un peu la même chose, puis avec la main droite, on s'amuse et on finit par trouver des
voilà. Et c'est ce que vous avez fait dès le départ. Et vous avez voulu rester dans l'improvisation pendant très longtemps.
Oui, ça c'est mon caractère.
Non, mais c'était
mon
tempérament. Et le prochain concert de Serge Becker aura lieu à la librairie du Petit Pont.
Non, on va faire ça au Centre Saint-Paul.
Oui. Voilà, volontiers.
Alors donc, je suis arrivé avec...
On demandera à M. Pluvinage d'apporter des tomates.
Je suis arrivé avec 20 ou 30 élèves, une heure par semaine, ça suffit pour travailler chez soi. Naturellement, il vaut mieux avoir un piano chez soi, sinon on ne peut pas répéter tous les soirs. Mais avec 20 minutes, une demi-heure maximum par jour, au bout de 8 jours. Et puis, ce n'est plus un exercice. Vous apprenez des mélodies que vous choisissez, que vous aimez, et vous avez envie de les jouer. Alors, la première leçon, peut-être que c'est un peu barbare, bon, c'est scolaire, mais dès la deuxième leçon, on y prend un plaisir, on y prend un goût, vous comprenez, parce que on choisit les morceaux qu'on aime et qu'on a toujours entendu chez papa, chez maman, quand on était tout petit, on arrive à les jouer, c'est formidable. Ce qui retient les élèves maintenant, c'est toute la construction pour arriver au classique. Mais pour arriver au classique, ça forme des pianistes professionnels qui jouent du classique. Ce n'est plus de l'amusement, c'est un métier, c'est un plaisir à leur manière, mais c'est autre chose. Tandis que moi, ma méthode, elle... elle ne prend uniquement que des gens qui ont envie de résultats immédiats et non pas...
Ce que vous racontez, c'est très attractif. Vraiment, je ne monopolise pas 20 secondes. Tous mes souvenirs d'enfance me remontent. Mon beau-père était éditeur de musique, donc il fallait absolument que j'apprenne le piano, ça faisait bien.
Alors, classique.
Oui, bien sûr. Et on m'avait collé dans les mains d'une vieille dame, professeur conservatoire,
oh là là,
qui
ouais.
sentait le pipi, le poisson.
Oui, d'accord, oui, d'accord. Oui.
Et j'avais le piano qui était là à côté de moi.
Et vous aviez quel âge?
Oh, j'avais 7-8 ans. Oh là, et j'avais pas le droit de toucher au piano. Il fallait que je me tape la méthode rose et puis je faisais les choses.
Ah oui, la méthode rose.
Parce qu'il ne fallait pas toucher au piano tant qu'on savait pas. Alors qu'avec votre système, c'est formidable, on peut commencer à faire quelque chose.
Mais oui, mais il n'y a pas besoin de lire la musique.
Résultat, je ne sais jouer que de l'électrophone maintenant.
Non, mais il n'y a pas besoin de d'apprendre à lire la musique.
Cela dit, quand vous dites que ça n'a rien à voir avec le classique, c'est vrai. D'ailleurs, on avait vu, j'ai eu, quand la première fois que j'ai reçu, il y a eu des protestations de la part de profs de piano classique traditionnel qui disaient, attendez, mais il va nous pourrir les élèves, etc. Or, c'est pas vrai, parce qu'il y a eu l'exemple d'un jeune homme, enfin, entre autres, qui avait fait un blocage avec le piano classique. Il pouvait pas y arriver parce que ça l'enquiquinait, pour tout dire. Et que à qui son père a dit, bon, bah, tu vas essayer avec la méthode de Pierre-Marie. Il a essayé, il s'est mis au piano, il a eu des résultats, il a commencé à jouer, et du coup, il s'est mis.
Vous comprenez?
Il a commencé à travailler sérieusement. Donc, après, il est devenu, je dirais, un vrai, il est en train de devenir
voilà,
un pianiste.
On vous dit le son, vous avez 7 ou 8 mélodies, vous sentez que ça vient, vous sentez. Alors, bon, naturellement, c'est pas parfait, mais avec les semaines, ça devient de plus en plus facile. Et quand on arrive à la 10e leçon ou 12e, et que je lui dis, oui, mais jusqu'à maintenant, je t'ai dit de mettre tes mains comme ça, mais là, maintenant, tu vas comprendre que si tu ajoutes ce doigt-là, ça te fait 4 notes au lieu de 3, ça te fait un 7e.
Oui, il faut qu'il fasse pousser des doigts en plus.
Comment?
Je suis jamais allé jusque-là. Il faut se faire pousser des doigts.
Non, c'est pas se faire pousser les doigts, mais utiliser ses mains. Parce que la musique, c'est pas 3 doigts, c'est la main gauche, les accords, c'est 4 doigts. Hein. Alors, surtout dans le contemporain et dans le jazz. Alors, évidemment, les gens arrivent à faire 4 doigts plus la mélodie. La mélodie, elle est quelquefois à l'octave, quand ils ont envie, ou en tierce, ou en quarte. Alors, ça fait donc 4 et 2, 6 doigts. Alors, on a une structure mélodique riche et intéressante. Et on n'est pas obligé d'aller vite. On choisit des morceaux très lents. Bon, naturellement, au bout de 2 ou 3 mois, on a plus d'aisance. Alors, on choisit des morceaux un peu plus rapides, du jazz, ou alors des...
Il y a un spectacle, je l'interromps parce que... Oui. Sinon, on est encore là demain matin. Il y a un spectacle qu'il faut voir quand même, c'est... Vous voyez les mains de Pierre, c'est pas ce qu'on appelle vraiment des mains de pianiste. Il a les mains assez... Oui. Ça fait grosse papate. Alors, quand il a les mains sur le clavier, oui. On a l'impression qu'il va toucher 14 notes en même temps. Il joue à une vitesse stupéfiante et c'est fascinant de regarder ses mains bouger sur le piano parce qu'on a l'impression que c'est des pattes de nounours qui tapent et puis ça fait de la vraie musique. C'est pas du tout le côté doigt fin de la pianiste classique.
Mais Fats Waller avait des doigts plus petits que les miens et il jouait Farnfock.
Voilà. Il y a très peu de pianistes qui ont des mains de pianistes en définitive.
Ah, oui,
les doigts un peu courts.
Exact.
Et alors le résultat est... Bon, on s'amuse. C'est pour ça que je demande à Pierre de venir tous les ans. C'est parce que moi, j'ai eu un vrai, vrai bonheur à m'amuser avec ce piano.
Je vous ai vu d'ailleurs, j'essayais d'être votre collaborateur à ce moment-là, il n'y a pas moyen de vous arracher.
C'est pour ça que vous m'aviez dit que je jouais très bien alors.
Voilà. Oui.
Et en tout cas, je ne me suis jamais ennuyé une seule seconde. Alors, ce n'est pas la peine d'acheter un demi-queue ou un.
Non, mais non, pas du tout.
Avec un clavier électronique maintenant qui
vaut 3000 francs.
Oh, enfin, 3000, c'est beaucoup. 300 euros.
Oui, c'est ça.
Oui, 2000 francs, on arrive à trouver un truc qui marche très bien.
Oui, c'est ça, oui.
Et puis on s'amuse, voilà. Alors, si, en plus, on peut mettre des écouteurs, ce qui préserve les bons rapports avec le voisinage.
Exactement. Mais non, mais à la 3e leçon, on commence à ressentir et à comprendre. Et on va de plus en plus vite. Parce que il n'y a pas les contraintes du classique où il faut se tenir droit, où il faut... Il n'y a pas tout ça. C'est une relaxation totale des doigts et de la mélodie. C'est fabuleux de pouvoir... Moi, j'ai eu des élèves qui, au bout de 3-4 mois, Ils avaient envie d'arrêter tellement ils jouaient n'importe quoi. Et alors après,
ils avaient envie d'arrêter les leçons, pas d'arrêter le piano.
Oui, mais après, avec une mélodie, on arrive à harmoniser. On a tellement l'habitude de faire trois ou quatre notes à la main gauche, c'est-à-dire un accord, que on arrive à harmoniser n'importe quelle mélodie, alors, que ça soit en do. Alors moi, je travaille le do le premier pendant 2-3 mois. Après, je passe au fa, au sol, bon ben puis c'est tout. Rarement au si bémol ou au mi bémol, c'est très rare. Et encore quand l'élève est doué, autrement en do, en fa, en sol, 3 tonalités, ça suffit largement pour agrémenter sa vie.
Vous pouvez nous dire où on est, monsieur de Beckett, il est dans les bémols déjà, ou pas, non?
Non, mais moi, je l'ai appris en do, mais après il s'est débrouillé, parce que
il a do large, de toute façon.
Oui, mais il m'a étonné en improvisation. Il a une richesse.
Ça, pour l'improvisation, on peut lui faire confiance.
D'improvisation extraordinaire, ça. En général, l'improvisation, c'est difficile. Les élèves préfèrent avoir des mélodies qui les guident et ils y arrivent. Mais lui, il n'a pas voulu.
Champion de l'improvisation.
Mais c'est vrai que...
Bon, on n'est pas là pour parler de moi quand même, si, aussi, mais
non,
enfin bon.
Mais oui,
alors, s'il y a une dernière chose que je voulais dire avant qu'il nous explique comment on peut accéder à ces merveilles, c'est que, accessoirement, je suis quand même obligé de dire que Pierre-Marie est complètement fou. Hein, et donc quand vous prenez une leçon de piano avec lui, il vous parle de piano et tout, puis il y a un moment où il va vous parler d'autre chose, et là vous allez découvrir un univers assez inattendu. Bon, j'en dis pas plus, oui. Mais si vous voulez vous amuser, vous le branchez sous coupe volante, là vous êtes parti, vous êtes tranquille pour un moment.
Non, mais j'ai eu des contacts,
Non, mais ça, on n'en parle pas, parce que c'est
fabuleux, mais je suis pas venu pour ça, mais j'ai quand même eu des on croit pas, moi je m'en fiche, moi je crois ce que j'ai vu et les contacts que j'ai eu avec des soucoupes volantes, enfin, avec des
bon, mais il ne mord pas, hein. Il enseigne le piano, il est très très sage, il est très sérieux.
Mais le piano passe avant tout, et il est important, au bout de 2 ou 3 mois, qu'un élève commence à jouer tout
alors,
seul.
Comment on fabuleux. Fait? Est-ce qu'il y a moyen de vous joindre?
Oui, je vais donner un numéro de téléphone pour me joindre, au 06. Ah oui, alors, c'est vrai que...
Vous l'avez en tête ou vous
oui,
l'avez
oublié? J'ai reçu.
Le piano, c'est bien.
Son nom, c'est
mémoire.
Pierre-Marie.
Oui, Pierre-Marie.
Pierre-Marie.
De beaux prénoms.
Alors, 06-67-33-29-72. 06-67-33-29-72.
Voilà, vous pouvez appeler Pierre-Marie au 06-67-33.
Ou alors vous écrivez.
29-72.
Vous écrivez émission.
Vous écrivez au Libre Journal.
Le Libre Journal. 4 places translites. C'est voilà. Là que M. Beckett joue du piano, mais on y fait aussi un journal.
Voilà. Oui, c'est ça. 4 places translites.
Auquel on peut s'abonner.
Monsieur de Cugis ou chez Monsieur.
Non. Chez Monsieur de Beckett, voilà, Libre
chez
Journal.
De Beckett, voilà.
Vous pouvez me donner un nom, n'est pas le mien d'un seul coup. Merci mon cher Pierre, je vous rends votre liberté.
Alors à la prochaine leçon.
Eh ben oui.
Hein, quand on reprendra tout ça. Voilà.
Merci. Merci. Beaucoup. Je vous demande de laisser la place comme promis à Monsieur de Grémont.
C'est vrai, oui.
Et à très bientôt. Voilà. Alors, maintenant, nous allons revenir à la terre. On était tout à l'heure avec le responsable des potagers du roi. Mais là, on est avec un monsieur qui a aussi un potager, j'imagine. Vous avez un potager,
bien
monsieur.
Sûr, bien sûr.
Un potager, il a des oies. Alors, il peut vous parler des oies pendant 8 jours, si vous voulez.
Un verger.
Il fait des noix. Des noix et des oies. Il fait des pommes.
J'ai même un chauffage solaire qui permet d'avoir pendant tout l'été, pendant 6 mois, je n'achète pas de mazout. C'est extraordinaire.
Vous êtes un mauvais citoyen, alors qu'est-ce que je suis obligé de vous le dire. Et monsieur de Grémont, là.
Eh bien, moi aussi, j'ai un potager. J'ai même des ruches.
Vous êtes amis tous les deux et pas très jeunes, on peut dire.
C'est un potager.
Et alors, c'est amusant parce que j'habite en Seine-Saint-Denis. Et alors, quand on dit aux gens, j'habite à Rogny, en Seine-Saint-Denis, Rogny recule, toujours. Ouais. Ah bon, vous
dans
étiez là-bas. Alors, oui, ça fait peur un peu. Or, dans notre coin, c'est le calme complet. Dans mon jardin, qui fait quand même 1000 mètres, hein, 1200 mètres, j'ai des ruches. J'ai 6 ruches qui rapportent un miel délicieux. Et alors, évidemment, cette année, il y a des années à légumes. Cette année, c'était une année à tomates.
C'est vrai.
Hein, c'est, et puis argentin d'autre part. Alors, on a des tomates superbes. Alors, lorsque vous avez mangé ces tomates, vous n'avez plus envie d'aller dans les supermarchés.
Oui, acheter de la flotte.
Oui. Parce que, oui, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. On a l'impression de manger quelque chose, mais on ne sait pas quoi.
Enfin, les tomates sont particulièrement mauvaises quand on les achète au franc prix d'en face.
Enfin, oui, parce, ça, qu'elles sont, parce qu'elles sont...
Elles n'ont elles plus sont de choisies tomates.
En fonction
elles,
non, de, pas du
de,
tout.
De la forme, de la couleur, mais pas du tout.
Oui, voilà. Oui, oui, oui.
Alors, avant d'en venir aux considérations sur les tomates et autres, fruits et légumes sympathiques, moi, je voudrais on commence par la philosophie de votre choix. Parce que, je ne sais pas pour vous, M. Delon, mais je connais un petit peu Michel Delière. Et Michel Delière n'était pas, lui, apparemment, destiné à pratiquer le retour à la Terre. Vous étiez professeur d'éducation physique. Donc vous étiez dans l'enseignement. Vous pouviez attendre paisiblement la retraite et faire comme tout le monde, aller faire le Nil, plage en Tunisie, une visite en autocar du Portugal, enfin des choses qui sont évidemment fort intéressantes. Or, au lieu de faire ça, c'est le marquis se marre parce qu'il sait de quoi je parle. Au lieu de ça, vous vous installez dans un endroit qui est quand même pas très bucolique. Faut dire le 9-3, c'est pas...
Pardon ?
Ah, vous n'êtes pas dans le 9-3, vous êtes dans le quoi ?
Ah, moi je suis en Brie.
En Brie.
En Brie. Et dans un endroit absolument désert. Je vis au milieu des arbres, d'une rivière.
Mais c'est dans quel département, ça ?
C'est le département de Seine-et-Marne.
Seine-et-Marne. C'est pour ça qu'on vous appelait entre nous le Pol Pot de la Seine-et-Marne. Voilà. Parce que vous vouliez absolument conduire les gens, presque quasi de force, à repeupler en agriculteur, enfin en paysan, la Seine-et-Marne. Non. Et donc vous avez fait ce... Mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie qui vous a déterminé à faire ce que... C'est une chose qui n'est pas automatique.
Eh bien, tout simplement parce que j'ai vécu à Paris pendant une trentaine d'années. J'étais dans un endroit, dans le 13e arrondissement, j'étais dans un jardin. J'avais du soleil, j'avais le calme. Et malgré ça, j'étouffais dans la ville parce qu'il y avait trop de monde, trop d'agitation. Et je ne sais pas pourquoi, c'est une envie certainement atavique, mais j'éprouvais le besoin d'aller à la campagne où il y avait des arbres, de la verdure, des animaux sauvages. Et c'est ainsi que j'ai mis près de 30 ans à m'installer, parce que quand on redevient paysan, je suis devenu je suis maintenant ce que j'appelle un néo-paysan, c'est-à-dire un citadin qui s'est converti à la vie campagnarde. Voilà, tout simplement. Mais avant de continuer, je voulais d'abord vous remercier de m'avoir invité, et je voulais en profiter aussi pour vous féliciter pour votre journal. Je suis très content d'y collaborer depuis déjà 9 ans.
Ça si ce journal est aussi bon, vous en êtes aussi...
Ça fait 9 ans que je travaille pour vous.
Une des chevilles ouvrières, comme le marqué.
Je vous déclare également publiquement donc que je ne vois pas dans quel journal autre que le vôtre je pourrais écrire.
Ah oui, ça, moi je suis d'accord avec vous. Voilà. Non, c'est vrai, liberté de ton, c'est ça.
Je veux dire que chez moi, il n'y a pas beaucoup de censure.
Alors maintenant, vous me demandez ma philosophie, eh bien, elle est assez simple finalement. Maintenant 25 ans, 23 ans que je suis militant politique au Front National. Je me suis donc occupé de vouloir sauver la patrie pendant tout ce temps-là. Et auparavant, je m'étais engagé dans la première armée française. J'ai fait la guerre contre l'Allemagne. Donc je me suis toujours intéressé à la France, j'ai toujours voulu la sauver avec mes petits moyens. Mais enfin, j'ai toujours voulu le faire. Et je m'aperçois maintenant, et là c'est ma philosophie, qu'il y a beaucoup de gens parmi nous dans notre famille traditionnelle, beaucoup de gens qui veulent sauver la France globalement. Ils estiment qu'on peut globalement la sauver en la réformant. Et je m'aperçois maintenant que ça me paraît quasiment impossible. C'est pourquoi je suggère de créer des regroupements de Français qui veulent retrouver une vie paisible à la campagne dans un lieu isolé où ils seront tranquilles. De façon, et je me tourne maintenant vers Monsieur l'abbé de Tannouarne pour dire que quand Jésus reviendra sur terre, il trouve encore des gens en train de prier. Parce que s'il n'y a plus de gens en train de prier, on ne voit plus ce qu'il pourrait faire quand il reviendra. Voilà.
Alors, on peut quand même prier à la ville, enfin, malgré tout.
On peut prier à la ville, mais vous admettrez que c'est de plus en plus difficile et que les tentations, monsieur l'abbé de Tannoir, sont tellement nombreuses. J'ai pris le métro à l'instant, je suis venu de la gare Saint-Lazare jusqu'ici par le métro, par la ligne numéro 9. Et quand on passe dans les stations de métro, qu'est-ce que l'on voit ? Dites-moi ce que l'on voit.
Non, les tentations sont terribles, certainement, mais je crois, vous savez, que le mal est à l'intérieur de nous. C'est bien ce qu'enseigne en tout cas l'Évangile, et que malheureusement, on peut aussi bien connaître ces tentations à la ville, à la campagne, et c'est soi-même qu'il faut réformer. Et ce qui me semble, en écoutant votre enthousiasme, c'est que vous avez voulu, à un moment de votre vie, ayant beaucoup pratiqué l'éducation physique, ce que personnellement j'ai très peu fait.
Bienvenue au club, je crois.
Bon. Comme disait Churchill, jamais de sport. Voilà. Bon. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est que il y a un moment où vous avez senti que il fallait vous convertir.
Oui.
Il fallait vous transformer, vous retourner, aspirer à une vie effectivement saine et aussi, je crois savoir, à une vie chrétienne qui n'était pas forcément la vôtre au départ.
Pas du tout, non.
C'est ce qui me semble aussi intéressant dans votre témoignage. Après, les moyens, je dirais que chacun voit un peu midi à sa porte, et je pense qu'il y a effectivement des gens qui ont besoin de ce retour à la terre et de ce contact avec la campagne que vous dites. Moi, personnellement, quand je vais à la campagne, je vous avoue, je m'enferme dans une chambre et je travaille. Et finalement, je trouve ça très bien, la campagne, parce qu'il n'y a pas de sollicitations extérieures. J'ai juste mon portable et ça me permet d'avancer un petit peu sur les divers travaux.
En somme, vous êtes devenu un urbain.
Ben, moi, je suis lamentablement citadin. Mais vous savez, l'Église a toujours pensé qu'il fallait évangéliser les villes d'abord, et les paysans ont été les paganis, c'est-à-dire longtemps les païens.
Oui, mais tel n'a pas été le cas de Saint-Antoine. Saint-Antoine est parti dans le désert, il était en ville, il est parti dans le désert, et même dans le désert, il a eu de nombreuses tentations.
C'est pourquoi c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir des tentations partout, pas seulement.
Il y a des gens qui aiment retrouver Dieu en ville, et il y en a d'autres qui préfèrent trouver Dieu à la campagne, parce que la campagne, c'est la création de Dieu.
Mais d'ailleurs, c'est en plus.
Non, tout à fait, c'est très important aussi.
M. Avetanor nous parlait de il disait, on peut prier aussi en ville, mais il faut reconnaître que quand on est dans un jardin le soir, quand il n'y a pas de lune et qu'il y a un ciel étoilé, c'est quand même beaucoup plus facile d'admirer la splendeur de la création plutôt que quand on est dans le métro entre Barbès.
Alors moi je suis personnellement extrêmement sensible à la mer, et ma campagne est à la mer, et que si je sors un peu, c'est pour aller voir effectivement un coucher de soleil somptueux. Là ça vous fait croire en Dieu.
Je
vois difficilement que la beauté de la nature puisse être interprétée comme, je sais pas, un ensemble de hasard, de réactions chimiques en chaîne,
Comme mort de la mer, on sait que le Breton aime tellement la mer qu'il refuse d'y mettre le pied.
Et c'est un peu mon cas, oui.
Alors, pour vous inviter à aller à la campagne, à la montagne, je vais vous jouer un petit air. Film de Marcel Pagnol, Le Malon des Sources.
Je pense qu'ils sont tous partis à la campagne. Hein.
Voilà.
C'est alors, exactement le contraire du joueur de flûte de Hamelin.
Ah oui.
Justement, parlons donc un petit peu de Marcel Pagnol. Vous savez que tout le monde aime cet excellent cinéaste qui est devenu académicien et qui a fait de nombreux films sur la campagne. Et Manon Dessources montre déjà le recul de la vie campagnarde et le commencement de l'exode rural. Dans Manon Dessources, il y a encore un prêtre, il y a encore des processions, mais ce sont les dernières. Et je vais demander maintenant à mon ami De Grémont, qui est mon alter ego, de nous parler de la cause principale de l'exode rural qui s'est produit après la guerre et sous le nom de la loi Rueff à Armand. Vous avez du tien de décret ou comment?
Oui, Armand Rueff.
Vous l'avez là. Parce que à un moment donné, le gouvernement de la République a décidé de supprimer purement et simplement, quasiment génocider la paysannerie en transformant les paysans en ouvriers. Et Monsieur De Grémont va vous parler un petit peu de cette affaire.
En fait, maintenant, les paysans sont des ouvriers agricoles. Ce sont des ouvriers agricoles. Le mot paysan, maintenant, peut dire grand chose. Et je ne sais pas comment ça se prononce, Rueff. Je suis influencé par la langue allemande, en allemand, de Rueff. Eh bien, carrément, il a dit qu'il fallait que l'ouvrier de l'industrie, gagne mieux sa vie que les paysans pour pouvoir s'en débarrasser des paysans. Il l'a dit en 1959, j'ai le texte ici. Et tout a été fait pour dégoûter les paysans de la terre. Or maintenant, j'ai un rucher en Seine-et-Marne aussi, à côté de Moret-sur-Loing, et les paysans ne sont plus des paysans. Je vois par exemple, il y a une trentaine d'années, j'ai vu un vieil homme qui, je crois que j'étais au Vergnat. Et alors je lui ai dit, mais enfin, tous les ans, vous allez certainement dans votre village natal. Et il m'a dit, non, monsieur.
Il faut que vous vous rapprochiez du micro. Voilà, parce que j'ai vraiment l'impression de parler dans une cathédrale, c'est
monsieur,
pas mal.
Mais je n'y retournerai plus. Alors pourquoi? Parce que ça me fait trop mal. Il dit, lorsque j'étais tout jeune, mon village, c'était une petite merveille. Il y avait les moissonneurs ils moissonnaient, c'est un travail qui est très dur. Parce que on s'imagine qu'il faut prendre une faux, il faut savoir manier la faux. Et puis, il faut être très fort. Vers 10h du matin, il y avait les gens de la ferme, les femmes, qui venaient apporter des casse-croûtes et tout. Et on leur apportait de la frainette. Vous savez ce que c'est de la frainette? Moi, j'en fais toujours de la frainette chez moi. Je la fais moi-même.
Boisson à base de frêne.
De frêne, c'est une infusion de frêne, dans le fond. Bon, et il dit, alors, le dernier jour de la moisson, il y avait ces grandes charrettes, vous vous rappelez, ces grandes charrettes où il y avait toutes ces gerbes qui étaient là. Et le patron fermier devait venir, il devait prendre sa fourche, et puis l'envoyer tout en haut. C'était pas facile. Et tous ces paysans le regardaient faire. Et là, il y avait réussi, toujours réussissait, c'était la fête. C'était une fête, il y aurait deux et même trois jours. Et le village où il était, il y avait énormément de monde parce qu'il fallait absolument faire la fête. Il dit maintenant. Alors, les paysans se retrouvaient le soir, il y avait deux cafés dans la ville, dans le village. Il y avait deux cafés, mais ils n'y allaient pas vraiment pour boire. C'était un lieu de réunion, en réalité. Ils étaient ensemble. Il dit maintenant, lorsque j'y retourne, il n'y a plus personne. Lorsque j'y retournais, il n'y a plus personne. Les quelques fermes qui restaient ont été achetées par des Anglais ou des Hollandais. Il dit maintenant, les deux cafés ont disparu, il n'y a plus rien. Il dit, c'est terminé. Alors il dit, je n'ai plus envie de retourner là-bas.
Mais je crois que la mort des campagnes françaises, elle est quand même inscrite, malheureusement, sur tous les monuments aux morts érigés dans toutes les communes de
Exactement.
France,
hein,
où on voit que des dizaines de jeunes hommes ont été moissonnés par la guerre de 14. Et je pense que jamais la campagne française ne s'est remise de cette dépopulation.
Il y a autre chose. Il y a, bien sûr, ça c'est essentiel. Mais après, au moment de la, juste après la guerre, enfin pendant la guerre, il y a eu le programme synarchique qui s'est mis en place. C'est une réalité historique. C'est pas une invention de Tocqué. Et parmi les gens qui étaient là pour appliquer, c'est-à-dire le programme du groupe X-Crise, il y avait quelqu'un qui s'appelait Monsieur Pisani, que De Gaulle a porté au ministère de l'Agriculture et qui avait annoncé qu'il ferait disparaître la vie paysanne en faisant édifier ce qu'il appelait des agropoles, où, disait-il, on fera des immeubles, des cités dans la campagne, des immeubles de 12 étages au milieu des champs, et les ouvriers, enfin les paysans n'existeront plus, ce seront des ouvriers agricoles qui mèneront la même vie que les ouvriers de l'industrie.
Ouais. Voilà, exactement.
Ils descendront le matin pour prendre leur travail à 8 heures et ils rentreront le soir à 6 heures pour regarder la télévision, etc. Et c'était un projet de génocide de la paysannerie française qui a été mené à bien, puisque 90% des paysans français ont disparu. La France était un pays essentiellement paysan depuis toujours. Si on lit, on parlait tout à l'heure des cours de latin, quand on lit les auteurs latins qui parlent de la France, enfin de ce qui était la Gaule, le territoire qui va devenir la France, eh bien on voit que non seulement c'était un pays de paysans, mais c'était un pays de paysans géniaux, puisque les Romains nous regardaient avec regardaient nos ancêtres avec admiration, parce que nos ancêtres avaient inventé la moissonneuse-batteuse.
Exactement, oui.
Et eux continuaient à travailler. Ils avaient inventé l'arrière, ils avaient inventé la moissonneuse-batteuse, alors que les paysans romains continuaient à travailler avec les bras des esclaves. Donc, on a chez nous une tradition paysanne qui est bimillénaire et qui a été éradiquée en 20 ans. Et après, il faut pas s'étonner si, effectivement, disparaît la tradition religieuse, la tradition militaire.
Il est clair que l'Église recrutait beaucoup de séminaristes à la campagne. Là, c'est sûr.
Alors, vous voyez maintenant les paysans que je vois en Seine-et-Marne. Alors, ils sont sur leur tracteur. Le tracteur fait tout, hein. Et il est seul. Et le soir, quand il revient chez lui, que fait-il? Il regarde la télévision. C'est tout. Il est seul.
Et en général, il voit des feuilletons qui lui racontent la vie des paysans d'avant-guerre.
Si vous permettez, je vais vous donner maintenant quelques chiffres quand même intéressants sur le déclin de la paysannerie. En 1945, il y avait 2500 fonctionnaires au ministère de l'Agriculture. En 1988, il y en avait... attendez, j'ai vu le chiffre là. Voilà le chiffre. Il y en avait 30 107 plus 20 000 à la MSA, c'est-à-dire à la mutuelle. Donc, 50 000 fonctionnaires en 1987 et en 1945, il y en avait 2500. Vous voyez la multiplication. Pendant ce temps, la population paysanne en 1950, qui était de 10 millions, est passée en 2005 actuellement à moins de 300 000. C'est donc une diminution considérable. Et heureusement qu'il y a quand même 300 000 exploitations qui sont des mixtes, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont un métier et qui en même temps travaillent la terre. C'est donc un peu encourageant, ce qui leur permet de tenir.
En tout cas, les fonctionnaires ont été multipliés par 20 et les assujettis à l'administration ont été divisés par 70.
Halte au feu, là. Alors attendez, hein. Moi je vous parle de quelque chose que je connais, je suis paysan, moi. Toute ma vie travaillant dans les cours, j'ai cotisé à la mutuelle sociale agricole et c'est elle qui me paye mes retraites. Alors ça, le coût des gens qui ont deux activités.
activité, ben on pourrait peut-être un peu dénoncer les propriétaires de champs de betteraves qui font de l'agriculture et qui ont des chevaux de course. Et quand il y a un impôt sécheresse, ça sert à emmener madame à Venise. Hein. Alors, bon, la mixité, c'est pas, peut-être pas l'avenir dans ce domaine. Il y en a beaucoup qui jouent sur les deux tableaux, là.
Oui, mais ça, là, je pense que quand Michel Deliard nous parle de ça...
Ça concerne beaucoup de monde, quand même.
Oui, mais il parle pas de... Enfin, il évoque pas la situation des gros betteraviers ou des gros céréaliers.
Oui, mais...
Ce sont des petits, en général.
Oui, ben c'est valable aussi pour des petits paysans, c'est ce que je vous dis. Hein, on a l'écurie de course et puis la petite ferme. Bon, alors ça, c'est trop facile. Hein.
Alors voici un chiffre qui m'a été donné ce matin au téléphone par M. Alexis Arrête. Il tient ça de Michel Rocard, qui était Premier ministre. C'était en 1988. Et il disait que pendant 600 000 exploitants agricoles, donc 600 000 paysans disparaissaient, il se créait 750 52 000 postes de fonctionnaires. C'est extraordinaire, ça.
Et Rocard, il savait de quoi il parlait, parce qu'il avait été ministre de l'Agriculture, et moi, je le considère comme l'un des plus brillants ministres de l'Agriculture.
Ah, mais on ne le critique pas.
Non, mais je vous dis, c'est pour dire que vos chiffres tiennent la route.
Je vous en remercie. Bien, alors maintenant, est-ce que vous pourriez, M. de Grémont, nous parler un petit peu de M. Schwab et puis du suicide des paysans?
Ah bah, écoutez, oui. Attendez, j'ai mon petit papier ici. Voilà. Il a écrit ça, Günther Schwab. Ouais. Hein, vous connaissez peut-être, c'est un Autrichien. C'était un Autrichien. Et il a écrit ça il y a une soixantaine d'années. Alors, il dit, mais cela ne change rien au fait que les pays les plus civilisés sont ceux où l'on rencontre le plus fort pourcentage de suicides, de dépressions nerveuses, ceux où il y a le plus d'hôpitaux et le plus d'asiles psychiatriques. Ce qui tend à prouver que le système nerveux de l'individu n'est plus à la mesure des exigences de notre monde artificiel et mécanisé. Il a écrit ça il y a plus de 60 ans. À l'heure actuelle, c'est pire, c'est terrible, parce que les gens sont complètement déboussolés. Vous allez, par exemple, dans les banlieues. Dans les banlieues, c'est à peu près terminé, les potagers. Des animaux, d'avoir des poules, des lapins, c'est à peu près terminé. Et les gens comptent-ils des pelouses? Ils ont une pelouse. Et alors, j'ai un voisin, écoutez, quelque chose absolument incroyable, et je vous assure que c'est vrai, il a un abricotier. Son abricotier, il était il y a 3 ans de ça, c'était une merveille de voir tous ces abricots. Et je le vois revenir avec un cajot d'abricots. Alors je lui dis, mais il venait du supermarché. Je dis, comment? Vous avez acheté ces abricots? Ben, je dis, les vôtres. Oh, il dit, ça vaut pas le coup. Il dit, c'est tellement bon marché que il n'a pas voulu. Or, c'est une histoire vraie, ça. Hein? Et ben, c'est incroyable. Or, vous avez des gens qui vont vous dire, mais pourquoi s'embêter à faire des carottes? C'était pas cher dans les hypermarchés, tout ça. Et c'est vrai que c'était pas cher. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut absolument, c'est même un poison. Hein? Bon. Alors, voilà. Et les gens de la banlieue, maintenant c'est terminé, les potagers sont terminés. Dans mon coin, je suis le seul.
Bon, alors ces diminutions dont vous parlez, elles se font également en France sur la quantité de terres cultivables. Je viens de lire ici dans un journal très connu qui s'appelle Le Monde que la France perd tous les 6 ans l'équivalent d'un département de terres cultivées. C'est extraordinaire. Tous les 6 ans, il y a un département, une superficie équivalente à un département qui disparaît. Et qu'est-ce que l'on fait à la place? On fait des golfs, on fait des usines, oui. Etc., etc. Voilà. Alors, maintenant, il faut quand même un petit peu parler des grandes entreprises agricoles qui sont devenues maintenant industrielles. Et la campagne est transformée à un point tel que on ne trouve plus à côté, dans les régions où il y a des grandes entreprises qui fonctionnent, des grandes fermes, on ne trouve plus de coquelicots, les crapauds sont morts, les escargots sont disparus, des quantités d'insectes on ne les voit plus parce qu'ils sont détruits par les pesticides, les insecticides et autres produits chimiques. Alors c'est un désastre.
Mais attendez, je voudrais vous poser une question à ce propos. Oui. Il y a quelques années, on a fait le remembrement.
Oui.
Bon. On a donc détruit toutes les haies, tout le caractère bocager de nombreux paysages. Et il y a donc peut-être 5 ou 6 ans, ou bon, au plus une dizaine d'années, on a annoncé à grand renfort de trompette qu'on revenait sur cette politique et qu'on allait reconstruire des haies, qu'on allait reconstruire des bocages. Est-ce que ça s'est fait, ça ? Est-ce que ça s'est réellement fait ?
Moi, je ne l'ai pas vu chez moi, mais je sais que dans des régions, notamment Picardie, il en est question de recréer des haies que l'on a détruites préalablement.
Oui, mais ça, c'est vrai qu'on raconte ça. Cela dit, la vérité, c'est que c'était des haies naturelles dans lesquelles il y avait 10 ou 12 variétés de buissons, d'épineux, d'essences, de petits arbres, etc. Et maintenant, on fait quoi ? Des haies qui sont des haies industrielles, pratiquement.
Et puis, ça n'arrête plus les vents. Ce qui veut dire que les vents peuvent circuler comme ils le désirent. Voilà.
Mais ce qui est affreux aussi, c'est de constater, je vois en Seine-et-Marne, à Nantôt-le-Lunin, eh bien, il y avait des belles terres à blé. Ils ont fait un grand parc qui s'appelle Family Park, qui faisait une espèce de petit Disneyland. Et parce que c'est plus rentable.
Mais alors, c'est votre position, votre discours est un peu paradoxal, parce que vous nous dites il faut retourner à la campagne, il faut et puis une fois vous nous avez dit ça, vous nous donnez toutes les raisons
de ne pas y aller.
De pas y aller parce que vous dites c'est fini, il y a plus rien, c'est il y a plus de paysages, il y a plus de terres à cultiver, il y a plus de villages. Alors est-ce que vous pensez réellement que la réimplantation de familles en milieu agricole, en milieu rural, peut arriver, du seul fait qu'il y aura une ferme qui va ressusciter dans un coin, à modifier un processus qui est engagé depuis 60 ans et qui ne paraît pas prêt de s'arrêter?
Mais parfaitement. Les grandes exploitations agricoles travaillent dans les grandes plaines. Mais la France n'est pas composée que de plaines. Il y a des quantités de régions en France qui sont de semi-montagneuses et où les grosses machines ne peuvent pas marcher. Les tracteurs ne peuvent pas marcher sur des pentes. Il leur faut des plaines. Donc il est parfaitement possible de reprendre une vie paysanne, mais dans des endroits qui sont abandonnés par la culture industrielle, tout simplement.
Mais oui, vous voyez, moi ce que je crains quand même, c'est que les gens n'en ont plus envie.
Oui, alors là c'est autre chose.
Qui n'en ait plus envie, c'est une chose, mais il y a un autre aspect qui me paraît encore plus grave, c'est que si vous n'êtes pas paysan, à l'heure actuelle, avec le système des affaires, vous ne pouvez pas acheter de terre. C'est impossible.
Il y a un problème technique qui existe effectivement. On dit que on ne permet pas à certains d'acheter des terres pour telle et telle raison.
Alors d'une part, si vous n'avez pas déjà des terres, ou si vous n'êtes pas déjà fils de paysan, si vous n'avez pas fait une école spécialisée, là ça fait s'oppose à ce que vous preniez des terres. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, si par miracle vous arrivez à acheter des terres, eh ben vous avez Bruxelles qui vous dit ah non désolé là c'est des friches.
Non, mais là, de toute façon, ma démarche est une démarche d'action. C'est une démarche positive, c'est une démarche quasiment de lutte. On ne peut pas recréer une vie paysanne facilement. C'est une aventure. C'est la raison pour laquelle il n'y a que des personnes décidées qui ont la foi, qui aiment la campagne, et qui ont la foi. Je ne pense pas que l'on puisse refaire une telle aventure si on n'est pas catholique, si on n'est pas croyant, si on ne veut pas que lorsque Jésus reviendra, il y aura encore des gens qui seront là pour prier. Et c'est ça le plus gros problème, c'est un problème religieux.
Ça c'est le but. Mais maintenant il faut.
Non mais c'est important.
Bien sûr, je vais comprendre. Mais il faut aussi penser aux moyens. C'est-à-dire à l'heure actuelle, quelqu'un qui déciderait, un jeune couple par exemple avec des enfants ou qui veut avoir des enfants, qui dirait bon ben Michel Delière a raison, il faut revenir à une vie traditionnelle, à la campagne, en autosuffisance autant que faire se peut.
Voilà.
Alors, combien ça coûte ? Qu'est-ce qu'il faut comme argent pour faire ça ?
Il y a un problème financier. Et pour ce qui me concerne, moi j'ai constitué un petit trésor de guerre pour pouvoir commencer un achat. J'ai déjà constitué un petit trésor que je mettrai dans la balance pour faire avancer les choses. Mais je ne peux pas faire ça, évidemment. Je ne veux pas financer tout l'achat d'une région. C'est pas possible.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est finalement, votre idée, c'est celle d'un espèce de phalanstère agricole.
Un phalanstère, oui.
Une communauté.
Le village, c'est tendre à reconstituer un village traditionnel dont le prêtre serait là présent chaque jour pour s'occuper de ses paroissiens.
Moi, c'est ça mon rêve.
Voilà.
Maintenant, je vais vous poser la question. Qui tue? Quel prêtre?
Quel programme?
Mais non, il ne veut pas aller à la campagne.
Ah, moi, j'irai pas à la campagne. Non.
Mais vous êtes pourtant bien urbain, monsieur l'abbé.
Justement.
Non, mais ce qui me paraît, il y a effectivement, c'est un rêve magnifique. Et je crois que c'est un rêve que tout le monde caresse, plus ou moins, de se retrouver entre nous, loin de toute cette cochonnerie, toute cette saloperie, toute cette corruption, toute cette prostitution et tout. Et puis, vous savez bien, Michel, par expérience, que surtout chez nous, on est quand même des caractères. Quand on se retrouve ensemble, la première chose qu'on fait, c'est de s'engueuler. Et vous imaginez bien que dans un village, le village de Vorem, au bout de 15 jours, il y en a un qui va dire, dis donc, ton curé ne me plaît pas. Il a posé le calice à 23 cm trop à droite.
C'est parce que c'est un mauvais curé.
Ah ben voilà.
Vous notez que Michel Delière donne a priori tort au curé. C'est un saine anticléricalisme sur lequel bâtir la cité catholique de demain.
Alors, pour rester pratique, voilà, je vais demander maintenant à Roger de Grémont de dire comment il a fait pour devenir paysan à Rosny-sous-Bois. Comment il a fait?
Oui, c'est très simple. J'ai toujours vécu avec un jardin. Mes parents avaient un jardin, il y avait des poules, et je n'ai fait que de suivre, moi, c'est tout. Et aussi parce que je tiens beaucoup à la qualité de la nourriture. Ah. Parce que c'est affreux de voir maintenant ce qu'on offre aux gens. Vous avez, par exemple, j'ai entendu ça hier, la maladie d'Alzheimer. Eh bien, il y en a 800 000 maintenant dans le monde. Quand j'étais tout jeune, avant la guerre, eh bien, je ne connaissais personne. Dans mon quartier, il y en a 3 femmes.
Oui, ça.
Il y en a de plus en plus. Les maladies.
Mais non, il n'y en a pas plus. C'est parce qu'on les dépiste plus.
Ça, je ne suis pas d'accord avec ça.
Il faut poser la question. Il faut parler de ça avec le docteur Plantec, qui connaît très bien le sujet. Et en gros, je ne crois pas trahir sa pensée. Il dit, tout ça, c'est du bidon. Enfin, il ne dit pas comme ça parce qu'il est mieux élevé que moi. Mais il dit, en fait, dans le temps, on disait, t'as vu le grand-père, il est gâteux.
Il est gâteux. Il est retombé en enfance.
La pièce, il retombe en enfance.
Oui. Bon,
maintenant, on nous dit qu'il a un Alzheimer. Or, l'Alzheimer, si vous demandez à un médecin sérieux de vous expliquer ce que c'est que l'Alzheimer, il en est incapable parce que.
C'est papa qui devient gaga, c'est tout.
Il y a 36 000 symptômes différents. J'entendais ce matin, par exemple, un spécialiste de l'Alzheimer, qui, ou prétendu autoproclamé, qui expliquait que l'Alzheimer, on peut vivre de façon quasi normale pendant 5 ans, et puis après, ça va très mal et ça va très vite. Sauf, bien entendu, dit-il, quand ça dure 10 ans. Alors évidemment, si vous parlez sur des bases comme ça, on ne sait même pas ce que c'est que cette maladie. C'est une pure invention. On a pris un mot dans lequel on a introduit.
Pour éviter de dire gâteux.
Pour pas dire qu'il est gâteux, qu'il est neuneux, qu'il est atteint de sénilité précoce, etc. Donc, moi, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup plus de maladies. Il y a certainement.
Moi, je ne suis pas convaincu.
Cardiovasculaires, des choses comme ça, ou des troubles du comportement qui sont liés à la vie qu'on mène, qui est une vie de dingue.
Et puis aussi, il y a beaucoup de maladies. Par la mauvaise alimentation.
Oui, ça, c'est certain. Mais je pense que dans le village des rêves de Michel Delière,
ça
à 85 ans, ou 90 ans, ou 92 ans, on mettra encore le pépé derrière la cuisinière et on le laissera sur ce. Comme j'ai vu dans les Alpes il y a quelques années, le pépé est à côté du feu parce qu'il n'a pas froid, mais personne ne lui adresse la parole de toute la journée et les gens disent qu'il est gâteux. Ils ne peuvent pas le savoir, ils ne lui parlent pas. Et ça a toujours existé. Il y a une fiche qui me paraît très intéressante. Il n'y a pas de loi RUF Armand et un rapport RUF Armand, nous dit un auditeur. Le revenu du travail agricole a toujours été d'un cinquième moindre que celui des citadins, quelle que soit la politique menée. Le rapport RUF Armand, qui n'a guère été pris en compte, surtout pas par Giscard, date de 1959. C'est l'époque de l'entrée en vigueur de la politique agricole commune, laquelle a massivement subventionné les prix agricoles. Elle n'a pas du tout rehaussé le prix du travail paysan. Si ça peut enrichir quelqu'un, ce sont les propriétaires fonciers au moment où la politique est mise en œuvre, mais ça a très bien marché pour transformer les 10 paysans en syndicalistes, ce qui est un peu ce que vous disiez. Et il ajoute, le groupe X-Crise était composé de polytechniciens prétentieux et ignares en sciences sociales, sans parler de la philosophie morale, mais Jacques Rueff, quoiqu'il fût aussi polytechnicien, comprenait assez bien l'économie. J'aime bien le « assez bien ». Voilà. Donc cette mise au point est en fait sur la nature et le contenu au moins rapide du rapport Rueff-Armand. Ça confirme ce que vous disiez, Michel, c'est-à-dire c'est une des, c'est quand même une des racines de l'effondrement de la vie paysanne, de la disparition de la vie paysanne. Moi, ce que je voudrais que vous m'expliquiez, ou que, ce dont j'aimerais que vous arriviez à me convaincre, c'est que c'est possible pratiquement, c'est possible techniquement, et c'est possible humainement de reconstituer des communautés paysannes viables. Et quand je dis humainement ou techniquement, est-ce que, par exemple, vous avez l'un et l'autre suivi des cours, appris à cultiver la terre ou à vivre de la terre, à entretenir un verger, à soigner des bêtes, etc. Ou est-ce que vous avez appris avant de le faire, ou est-ce que vous avez appris tout en le faisant ?
En le faisant, parce que redevenir paysan, c'est l'affaire d'une vie. On ne devient pas paysan comme on devient cordonnier ou qu'on devient réparateur de voitures. C'est une vocation. On est paysan parce qu'on aime la terre, parce qu'on aime la nature, parce qu'on aime voir pousser les plantes, voir vivre les animaux. C'est une vocation. Et pour apprendre le métier de paysan, il faut énormément de temps. La vie paysanne s'inscrit dans l'éternité. C'est pour ça que devenir paysan, c'est se rapprocher de Dieu, monsieur l'abbé. Et non pas être titi parisien, comme vous semblez l'aimer.
J'aime tout le monde, vous savez. Je pense que le Christ a été envoyé au titi parisien comme au paysan. Mais il me semble quand même que les questions de Serge sont assez pertinentes. On ne voit pas trop comment est-ce qu'en pratique, on peut revenir à cette paysannerie non mécanisée que vous appelez de vos voeux, alors que c'est une vie qui est extrêmement difficile et qui aujourd'hui serait insupportable à un psychisme de jeunes individus modernes.
Il y a un livre qui a été écrit il y a très longtemps, avant l'effondrement définitif du monde agricole, et qui montre à quel point ce retour ne pourrait se faire que dans des conditions apocalyptique et avec des efforts démesurés au prix de vie innombrable, c'est le livre de Barjavel qui s'appelle Ravage.
Ravage, oui.
Qui est un bouquin formidable qui raconte l'effondrement d'une société industrielle par la disparition de l'électricité, tout simplement. Enfin, la modification de la structure du soleil qui fait que du jour au lendemain, il n'y a plus d'électricité. Pouf, ça ne marche plus. Et donc, il faut à ce moment-là reconstruire une vie bucolique. Eh bien, la vie bucolique, c'est pas très exactement ce qu'on entend généralement par le bucolisme. C'est la première chose que font les gens, c'est de prendre des fusils pour se défendre contre les gars qui viennent leur piquer les récoltes, parce que ceux qui ont fait leur jardin, leur potager, ils ont de quoi manger, mais ceux qui sont à côté, qui savent pas soigner la terre et qui crèvent de faim, ils prennent des bâtons et ils viennent voler
d'où le recul nécessaire. Voilà.
Moi, je voulais vous poser une question. Oui. Dans votre ferme idéale, c'est bien, en ce moment même, là. Est-ce que vous avez la télévision? Est-ce que vous écoutez la radio? Est-ce que vous, le soir, vous dînez à 7h avec une lampe à pétrole? Ou est-ce que vous vivez comme moi à Paris?
Je vis de façon mixte.
Oui, parce que je vois, quand je vois le livre chronique sur l'opéra, je vois bien que vous sortez quand même de votre ferme,
On peut être paysan, mais on peut aimer la belle musique.
Non, je vous ai pas dit le contraire, donc ça veut déjà dire quand même que si vous l'écoutez chez vous, vous acceptez la chaîne stéréo et tout ce que ça comporte, ou si vous sortez de chez vous pour aller à l'opéra, il y a quand même une démarche très urbaine d'aller à l'opéra, la moitié des Parisiens n'y vont pas.
Vous avez tout à fait raison, mais pour ce qui me concerne, je suis extrêmement bref, l'opéra est un moyen de retrouver un réenchantement.
Vous ne pensez pas si le Christ arrive et qu'il nous trouve à l'opéra, au lieu d'être dans le jardin, il ne va pas nous considérer de la même manière?
Il m'engueulera. mais en attendant, ma première façon de me réenchanter dans ce monde en perdition, c'est d'abord d'appartenir à une église, à l'église catholique traditionnelle, et c'est pour ça que je suis content d'être à côté de monsieur l'abbé de Tannouarn. Et deuxièmement, j'avoue que j'ai une faiblesse sentimentale qui m'oblige à me réenchanter aussi avec l'opéra.
Mais
mais c'est pas un péché,
Non, parce que l'opéra, comme le dit notre dernier pape, l'opéra c'est déjà un refus de la religion catholique, c'est déjà un recul dans la religion.
Oh là.
Ah oui, là, il, je me rappelle plus les termes exacts, mais il quitte Benoît XVI, non pas, c'est bien Benoît XVI, hein.
Oui.
Benoît XVI.
C'est le pianiste de jazz, tout le monde le sait.
A déclaré, c'est tout à fait exact, c'est vrai, en Italie, que l'opéra, enfin, en Italie, pas qu'en Italie, c'est en Autriche également, puis en Allemagne, que l'opéra s'est développé plus qu'en France.
Ah, mais dans l'histoire de l'opéra, qui l'opéra. Est, ah, que oui, par rapport à la musique sacrée, et aux oratorios, etc., l'opéra apparaît, je sais pas, avec Mozart, comme une sorte d'hymne à l'humanité,
oui, mais contre l'Église.
D'idéologie maçonnique, bon, c'est très possible, tout ça, mais le problème, je crois, n'est pas là, enfin, Benoît XVI, c'est quand même un pape qui se déplace jamais sans son piano.
Voilà.
Donc, la musique, non seulement elle a du style et meurt, mais enfin, l'Église n'a jamais, au grand
donc
jamais, condamné la musique.
Vous autorisez à aimer l'opéra, alors.
Qui suis-je pour vous y autoriser, mais il n'y a pas de... Bon.
Alors, quand vous avez... Je vous demande une seconde, parce qu'à propos de la maladie d'Alzheimer dont on parlait tout à l'heure, c'est un peu confus, mais en fait, ça va dans un sens, cette émission. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, je le sens. le docteur Julien nous dit... la maladie d'Alzheimer n'est actuellement qu'un cache-misère qui simplifie de façon outrageante la complexité du fonctionnement du cerveau et de l'esprit. Ce n'est qu'un billet pour orienter le vieillard vers les ténèbres. La médecine neurologique est bien plus complexe que cela, et en ce sens, Planté a raison. Voilà.
On va faire le test, allez. Quel est le prénom d'Alzheimer? Eh ben, c'est comme ça que ça commence.
Aloysius.
Oui, bon, bah, oui, là, pour les autres, je vous signale que c'est comme ça que ça commence.
Bien,
j'aurai un message d'auditeur. Le village, bravo, monsieur Delière, votre idée est magnifique. Le village peut voir le jour dans Lyon où se trouve monsieur l'abbé Schaeffer. Voilà, nous avons un abbé, nous devons nous regrouper dans son village.
Enfin, ce qu'il nous faut, c'est des curés, pas des paysans. Il faut des curés.
Voilà,
je crois qu'il est dans la Nièvre, hein, à l'attention de l'auditeur.
Une auditrice nous dit, il y avait beaucoup de terrain à Rosny-sous-Bois où se trouvaient beaucoup de pommiers. On a détruit tout ça pour faire des bars HLM. Une autre auditrice, je serais d'accord pour qu'on garde nos terrains, nos potagers, mais j'habite à Verrières-le-Buisson, fille et petite-fille de cultivateurs. Malheureusement, dans les années 65, on nous a expropriés pour faire des lotissements. Je suis exproprié au prix de 25 euros le mètre, et après, tous ces lotissements vont être revendus à des prix dépassant plusieurs millions. Que Serge de Becquetch continue et qu'il ne change rien. Un auditeur...
Je suis révolutionnaire, je suis mal placé.
En agriculture, ce sont les maraîchers, horticulteurs, arboriculteurs, pépiniéristes qui disparaissent rapidement, car il s'agit d'une agriculture de main-d'œuvre. Et là, nous sommes pénalisés par rapport à l'étranger. Il en résulte une diminution des terres agricoles. Rien qu'en Seine-et-Marne, une moyenne de 10 000 hectares par an est convertie en béton. Voilà. Et puis alors on nous dit, pourquoi nos politiques, derrière un intérêt de façade, détruisent-ils de manière systématique et délibérée le monde rural et agricole? Et le génocide paysan n'est-il pas à l'origine de l'effondrement de notre grande nation? Et la nouvelle Église n'a-t-elle pas abandonné sa mission civilisatrice?
Voilà, c'est des questions qui n'appellent pas de réponse, parce qu'en fait, ce sont des commentaires et ils sont fort bienvenus, je trouve, et fort bien tournés. Michel Delière.
Alors maintenant, je suis content que monsieur l'abbé Tannoy soit là, c'est une excellente chose, parce que je ne suis pas prophète, bien loin de là, je ne suis qu'un petit paysan, un néo-paysan, et je constate qu'actuellement, il existe un chaos mondial. Il y a d'abord de la sécheresse, après il y a des inondations, après il y a des cyclones, après le pôle Nord est en train de fondre, on se rend déjà en bateau jusqu'au pôle Nord, ça s'est fait ces dernières années. Il va y avoir une élévation du niveau des mers parce que le Groenland est en train de fondre.
Ça inquiète l'abbé de Tannoy qui est quand même chez mon propriété au bord de l'eau.
D'autre part, nous assistons à la destruction des États, tout le monde le sait, la destruction des familles, tout le monde le sait, l'insécurité, l'immigration. Est-ce que nous ne serions pas, du moins pour la France, monsieur l'abbé Tannoy, dans une période qui correspondrait au dernier temps?
2012.
Oh. Bah écoutez, les derniers temps ont commencé avec la venue du Christ. Donc, de toute façon, dans le langage biblique, ça veut pas dire grand-chose. Ce qu'on sait, en tout cas, quant à la fin du monde, c'est qu'on n'en sait rien. Vous ne savez ni le jour ni l'heure.
Je viendrai comme un voleur.
C'est quand même très solennellement dit. Et quand on vous dit le Christ est ici, il est là, n'y allez pas. Donc, je crois qu'il faut faire attention aux faux prophètes et qu'il faut se dire que quelle que soit la difficulté des temps, mais tout a toujours été très mal, comme disait Bainville, et je pense que on peut méditer ça. Quelle que soit donc la difficulté des temps, eh bien, il y a moyen pour chacun de se saisir de sa liberté. Je pense que ça, c'est très important, de se saisir de sa liberté et de se dire, eh bien, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que ces 60, 80 ans de vie biologique ou 100 ans qui me sont accordés, est-ce que je vais simplement essayer de consommer le plus possible selon le modèle qui m'est proposé, ou bien est-ce que je vais essayer de me dire que au-delà de cette vie, j'ai peut-être un destin. Et là, je pense que l'Évangile, à toutes les pages, nous rappelle que nous avons un destin qui dépasse le temps. Et quel que soit le temps dans lequel nous vivons, si difficile soit-il, eh bien, nous pouvons librement décider de vivre pour le royaume de Dieu. Je pense que c'est...
En attendant quand même, on constate chaque jour, chacun constate que nous vivons une fin de cycle.
Qu'est-ce que ça veut dire, les cycles? Les cycles, c'est une théorie païenne. Alors, l'histoire cyclique, d'être païen, je crois vraiment qu'alors, s'il y a une chose dont il faut se garder, c'est une théorie cyclique de l'histoire. Parce que ça n'a rien à voir avec le christianisme.
Non, mais justement, c'est que je ne veux pas tomber dans l'histoire des cycles d'Hésiode ou bien de l'éternel retour
de Jean Fort,
de Nietzsche. Pas du tout. Puisque la philosophie de l'Église, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, est linéaire. Il y a un début et il y a les derniers temps. C'est linéaire. Mais au sein de cette ligne, il peut y avoir des montées, des descentes. Or, actuellement, il semble que le christianisme a déterminé, pour des raisons X et Y que je ne vais pas vous exposer parce que je ne les connais pas suffisamment, a déterminé une détérioration de la nature humaine, des familles et des patries. Les familles et les patries...
Alors, le christianisme a déterminé une détérioration.
Je n'ai peut-être pas très bien compris.
Je ne pense pas du tout que le christianisme soit à l'origine d'une détérioration de la nature humaine. Je pense même que sans le christianisme, nous sommes laissés à notre violence native. Et finalement, il n'y a que le christianisme qui essaye de casser le cycle de la violence et de prêcher non pas la non-violence, mais de prêcher véritablement la charité, la paix et autre chose que des rivalités permanentes les uns avec les autres qui ne produisent que la violence.
Parce que le projet que j'ai, c'est le retour à la vie évangélique avec comme vertu théologale la foi, l'espérance et la charité, et avant toute chose l'esprit de pauvreté. Or, dans une ville, l'esprit de pauvreté est difficile. On subit la pauvreté, mais on ne peut pas la vivre. Quand on est à la campagne, on vit naturellement, pauvrement, simplement. Par exemple, Monsieur de Grémont va vous dire comment il vit dans sa petite ferme à Rosny-sous-Bois. Est-ce que vous vivez dans le luxe, Monsieur de Grémont?
Non, pas du tout. Non, simplement. Moi, je trouve, dans le fond, comme disait Tolstoï, il faut simplifier la vie. La vie devient de plus en plus compliquée, alors il faut la simplifier, oui. C'est-à-dire d'acheter, par exemple, si on acheter ce qui nous est nécessaire. J'ai vu il y a peu de temps un jeune couple, il devait avoir dans les 25 ans, acheter un climatisateur. Alors j'ai été surpris, parce que c'est très cher, et je connais ce jeune couple, ils sont pas riches. Un climatisateur, ça peut se comprendre pour quelqu'un qui est âgé, parce que il y a des appartements, vous connaissez certainement Tonton, Bon, vous savez comment il est mort.
Oui.
Bon, j'étais chez lui. Déjà, même quand il n'y avait pas de canicule, il faisait très chaud, il habitait sous les toits. Hein. Avec la canicule, il n'a pas pu résister. Alors que des gens comme ça prennent un climatisateur, bon, ben, faut se comprendre. Mais quand on est jeune, je crois que c'est superflu. Hein, c'est pas nécessaire quand même.
Bon,
oh, c'est pas nécessaire. Alors,
ça dépend où on habite, quel est le climat.
Vous parliez de Tolstoï. Je veux dire mon opinion, non pas sur Tolstoï, mais sur l'image de Tolstoï. Il incarne pour moi la démonstration d'une phrase que j'ai toujours gardée quelque part dans ma tête, c'est que la simplicité, c'est un luxe de riche.
Absolument.
Quand vous avez des gens qui disent, moi j'ai acheté une paire de chaussures il y a 30 ans et je les porte toujours. Oui, mais seulement les chaussures en question, il les a payées
voilà.
Un mois de salaire, l'équivalent d'un mois de salaire d'un ouvrier. Les pauvres, les gens qui vivent simplement, ils n'ont pas les moyens de se payer des chaussures qui gardent 30 ans. Ils sont obligés d'aller acheter des chaussures chez André, qui vont payer 20 balles et qu'effectivement ils vont être obligés de jeter au bout de 3 mois. Alors on leur dit, mais vous vous rendez compte, si vous achetiez des chaussures que vous avez payées 2000 balles au lieu de les payer 20 francs, vous pourrez les garder 30 ans. Mais ils ne peuvent pas payer les chaussures 2000 francs.
Voilà.
Ouais, c'est tout. Et c'est ça tout le temps. Quand Tolstoï s'habillait, il portait une chemise, un pantalon, des bottes et un gilet. Seulement, la chemise, c'était une chemise de luxe. Le gilet, c'était un gilet qui avait été filé par une femme. Enfin, un cerf. Le pantalon, c'était du tissu magnifique. Et la botte, c'était du cuir d'agneau, etc.
Non, mais c'est possible, ça.
Bah oui,
mais ça n'empêche pas qu'il est bien de simplifier la vie, ne pas chercher.
J'entends bien.
Trop
mais ce que je veux dire,
choses,
premièrement,
c'est ce qui est nécessaire.
Premièrement, c'est pas la portée de n'importe qui. Et deuxièmement, c'est tout le problème que pose votre idée de faire des communautés paysannes. C'est que, ça suppose, d'une part, un bouleversement intellectuel, un bouleversement spirituel, personnel, et j'ai bien compris que ça, c'est ce que Michel veut faire. Ça me fait penser à la phrase, au proverbe chinois qui dit, si tu veux changer le monde, commence par changer ton pays.
Voilà.
Pour changer ton pays, change ta ville, et pour changer ta ville, change ta famille, et pour changer ta famille, change-la toi-même. Donc c'est ça, c'est bien clair. Mais cette extraordinaire révolution personnelle, ou évolution personnelle que ça représente, elle n'est pas à portée de n'importe qui, pour des raisons à la fois intellectuelles, morales, spirituelles, matérielles et matérielles. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Le gars qui... Il y a des jeunes à l'heure actuelle qui auraient peut-être envie, moi je peux vous citer beaucoup de jeunes couples qui se disent, moi j'aimerais bien effectivement faire ce que proposent ces messieurs, mais ils peuvent tout simplement pas, voilà, ils peuvent pas parce qu'ils n'ont même pas les moyens de s'acheter des valises pour emporter les trois vêtements qu'ils
n'ont pas les moyens, bien sûr.
Voilà. Donc c'est ça.
Voilà, mais attends, oui, vous disiez tout à l'heure, il faut se contenter du nécessaire, mais ce qui est nécessaire à vous n'est pas forcément nécessaire à moi. Et si vous avez,
c'est pour ça que c'est personnel.
Si vous avez écouté ces derniers temps les radios, etc., on apprend qu'on va manquer de pétrole et il y a eu on a interviewé des tas de gens et il y a plein de gens qui répondaient, mais moi je préfère manger moins et continuer à mettre de l'essence dans ma voiture.
Oui, mais ça c'est personnel.
C'est personnel, c'est des milliers de gens qui ont répondu ça.
Eh ben oui, c'est possible. Il ne faut pas absolument obliger les gens à acheter le nécessaire. Ils peuvent acheter ce qu'ils veulent.
Ah, voilà.
Alors, ah ben complètement.
Mais le coup du climatiseur, je comprends très bien que ces jeunes gens achètent un climatiseur.
Je n'achèterai que le nécessaire. Et maintenant, chacun fait ce qu'il veut.
Alors que s'il achetait tout simplement un éventail et qu'il fasse, il dise à sa femme de remuer l'éventail.
Pourquoi sa femme, tout de suite?
C'est un homme.
Bon. Non, c'est...
Enfin, donc on n'en terminera pas sur ce débat ce soir. Moi, ce que je voudrais dire, c'est doublement intéressé ce que je dis, c'est que Michel Delière, qui tient une chronique et qui fait un édito hebdomadaire de Décadère dans le Libre Journal, a exposé déjà plusieurs fois ses idées sur le retour à la Terre.
Et je vous en remercie.
Mais je vous en prie. Ah, c'est le plaisir était pour moi. Et bien entendu, vous pouvez le refaire à votre convenance, parce que c'est un sujet effectivement très intéressant, c'est un sujet qui ouvre le débat, et que c'est pas impossible, c'est pas simple, puis moi ça me passionne parce que c'est en dehors de ce qu'on fait d'habitude et de ce dont on parle habituellement, et je trouve que le Libre Journal c'est ça. On m'a reproché par exemple de publier des articles créationnistes, et si je publie pas des articles créationnistes, personne ne les publiera, et puis d'abord moi je suis créationniste, et si ça plaît pas, c'est exactement le même prix, voilà. Donc je suis...
Le prix de l'abonnement. hein, pour qu'on y aille.
En l'occurrence, c'est 110 euros. Ouais.
4 places France 6.
Donc, je crois qu'il faut donner la parole et donner la possibilité de s'exprimer à des gens qui ne l'auraient autrement jamais. Et je trouve que votre idée est belle, elle est excitante pour l'intelligence et pour l'esprit, elle sollicite la réflexion. Et d'ailleurs, on a vu que tout le monde a participé, tout le monde a soulevé les questions et les objections, voilà, que ça pouvait présenter. Donc ça mérite la discussion, c'est visiblement intéressant. On a eu pas mal de messages intéressés et intéressants. Et donc j'invite Michel Delerre à continuer dans le Libre Journal à nous donner... oui, c'est vrai ce que nous dit un auditeur, pardon. Il dit « Je suis étonné que vous ne parliez pas des communautés Amish aux États-Unis qui sont un excellent exemple de retour à la nature. »
Il vous a quitté il y a une heure.
Oui, c'est ça, je m'attendais à un truc de ce genre. Et c'est vrai que c'est très intéressant de les voir, le peu qu'on peut en voir dans des films.
Il y a eu un très joli film qu'on avait vu.
Oui, mais c'est du cinéma, ça encore. Attendez.
Voilà. Donc, Michel, essayez de nous convaincre qu'on peut retourner à la campagne, dans le journal, et puis on pourra en reparler dans cette émission, si vous voulez, sous le contrôle de quelqu'un qui va devenir le directeur spirituel de cette émission. C'est la bête à noir que j'embauche pour le compte. Merci, Michel Delerre. Merci, Monsieur de Grémont. Et vous nous faites une seconde ou deux de musique à bouche.
Voilà.
Merci beaucoup. Ça t'embouche quoi, ça, hein?
Ça, c'est...
C'est le Pierre de Cusy. Pierre-Marie se dit que s'il avait su, il aurait laissé tomber le piano pour faire de l'harmonica.
On peut faire les deux.
Marquis, est-ce que vous avez quelque chose à nous raconter?
Ben, je vais vous dire que moi, je suis très séduit par le retour aux choses anciennes. Mais privé de chasse d'eau pendant 2 jours à la suite d'événements fâcheux, ben, je peux vous dire que c'est très, très, très déplaisant. Hein. On prend vite de très mauvaises habitudes.
Bon. Moi, dès que cette émission sera terminée, je ferai mon retour à ma compagne.
Oui, à ma compagne, c'est ça, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ben, que je suis très content de vous avoir retrouvé après un mois d'exil à la montagne, où je me suis aperçu qu'on appelait, alors vraiment, dans ma région de montagne, l'évêque, les prêtres, on dit plus jamais monseigneur, on dit plus rien, on me dit même pas le nom, c'est le père machin, le père Yves, le père... J'ai reçu un papier, à la suite du numéro de cirque sous tel chapiteau, le père Yves célébrera une grande messe, parking, tout ça était mélangé, et le périph, c'est l'archevêque d'Annecy, enfin, oh, voilà, je vais toujours de Carrie Lancille, là, quand je vais dans cette région. Voilà, bon.
Vous avez des messages?
J'ai pas de messages, mais j'ai 2 petites annonces.
Bon, faites vos annonces.
Alors, après, demain soir, jeudi 22 septembre, conférence de Pierre Hillard, au siège de Chrétienté Solidarité, 70 boulevard Saint-Germain, Paris 5e. Thème, Europe, partenariat transatlantique et mondialisme. Ça se passe à 19h30. Pour tout renseignement, 01 40 46 96 31. Je répète, 01 40 46 96 31. Et puis, je rappelle le titre du livre sur Jacques Maritain, Guillaume de Thieulois, Le Chevalier de l'Absolu, Jacques Maritain entre mystique et politique. C'est aux éditions Gallimard, collection L'Esprit de la Cité, et ça vaut 21 euros.
C'est tout.
Il y avait une question pour monsieur l'abbé de Tannouarne. Pour parler latin et respecter les déclinaisons et les différents cas de chaque déclinaison, comment s'y prenait le peuple?
Eh bien, le peuple n'avait très rapidement plus que 2 cas. Il y avait le cas sujet et le cas régime. Et ça simplifiait par rapport aux 6 cas de la déclinaison classique. Donc, Enfin, c'est un commencement de réponse.
Moi, j'ai enseigné le latin, et je peux vous dire, j'ai enseigné le latin parce que j'étais très bon latiniste, et bien que n'ayant pas le bac, j'enseignais à des jeunes enfants. Eh bien, j'avais inventé une méthode qui marchait d'une façon extraordinaire, c'était de dire, quand quelqu'un fait quelque chose, il s'habille pour le faire. C'est-à-dire, si tu fais du bricolage, tu mets un bleu, si tu vas à un mariage, tu mets un costume, si tu vas te baigner, tu mets un maillot de bain. Eh bien, le latin, c'est les mots du latin, c'est comme ça que ça marche. Il y a le personnage, c'est la racine, et puis il met son costume pour le travail qu'il a à faire. Donc, quand il fait son travail d'accusatif, il met son costume d'accusatif. Quand il a son travail de nominatif, alors après, il s'agissait d'enseigner aux enfants ce que c'était que le travail de nominatif, le travail d'accusatif, le travail de datif, d'ablatif, de génitif, etc.
Et ça, c'est très important.
Bien sûr, mais c'était pigé en deux leçons, c'était rentré.
Voilà.
J'ai quel costume tu lui mets ? Alors, je lui mets un houb. Mais pourquoi tu lui mets un houb ? Ah, parce qu'il fait l'accusatif. Bon, d'accord, voilà. Je livre ça. Moi aussi, j'avais ma méthode de latin sans solfège.
Un petit message. Tous les dimanches de 13h à 15h, il y a une permanence des néo-paysans en face de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay au restaurant Le Palais, 16 rue Monge. Donc les néo-paysans se réunissent là les dimanches.
Ça tombe bien puisque un auditeur vous demandait vos coordonnées. Quelles sont les coordonnées de ces messieurs ? Donc vous pouvez soit écrire à Michel Delière au Libre Journal, ça c'est très facile. Michel Delière, Delière s'écrit deux particules, LHYE2RES.
Et on peut écrire au Le Palais, 16 rue Monge, 75-05 Paris.
Vous pouvez donner l'adresse du bistrot.
75-05 Paris.
Ou envoyer un pigeon voyageur.
Alors donc c'est l'adresse du bistrot, 16 rue Monge, Paris 5e.
Alors un auditeur pose une question sur le piano, une question technique. Donc on va pas redonner la parole à Pierre-Marie pour répondre parce qu'on est là demain matin. Je donne simplement le téléphone. Je rappelle son téléphone, comme ça il pourra le joindre. C'est le 06 67 33 29 72. 06 67 33 29 72. Pierre-Marie, le professeur de piano sans solfège. Un auditeur me demande pourquoi je ne suis pas mentionné dans les dictionnaires de la politique française d'Henri Coston. Parce que quand il les a écrits, j'étais au grand maximum. J'étais même pas une lueur de concupiscence dans le regard de mon pauvre père. Donc, je ne sais pas comment il aurait pu deviner la brillante carrière de journaliste que j'ai faite. Ça, c'est typiquement français, vous allez voir. C'est pas pour rien qu'on est des Gaulois. La disparition de la paysannerie, c'est le petit commerce qui l'a tué. Je suis fils de paysan. Les maquignons ont plumé mes parents. Les grandes surfaces ont tué les petits commerçants. C'est un juste retour des choses. De toute façon, les commerçants, petits et grands, sont des pillards. Voilà. Avec ça, vous voulez faire un pays où on s'aime. Dans le numéro 350... Non, je peux pas répondre ça. Enfin, c'est pas... Et alors, un rappel, Monsieur Pisani, n'était-il pas à l'âge de 19 ans un passager du paquebot Massilia, voyageur avec d'autres? Pour quelle raison y était-il? Tout simplement parce qu'il avait la pétoche. C'était l'occupation et qu'il a foutu le camp en vitesse. Il est allé faire de la résistance à comment ça s'appelait? Le Massilia est parti au Maroc, là-bas.
Au Maroc.
Rabat ou à Tanger, ou je ne sais où.
Tanger, sûrement.
Voilà, et puis une auditrice dit, Serge Vicache avait promis que si on s'abonnait au Libre Journal, il nous donnerait les coordonnées du professeur de piano. Je me suis abonné, je n'ai jamais eu les coordonnées de ce professeur. Non, j'ai jamais pu promettre ça, parce que je peux pas subordonner l'abonnement au Libre Journal, 110 euros, 4 places France Liste, à ce genre de choses. J'ai toujours dit qu'il fallait écrire au Libre Journal et qu'on transmettrait.
Oui,
et puis là, maintenant, on a donné son numéro de téléphone, donc tout va bien. Et je signale que encore pour quelques jours au château de Mont-Saber une magnifique exposition est présentée, les zouaves pontificaux, les volontaires de l'Ouest, l'armée de la Loire 1870-1871. Donc c'est jusqu'au 2 octobre, dépêchez-vous d'aller la voir. C'est au château de Mont-Saber, 49 320 Couture, téléphone 02 41 57 91 21, 02 41 57 91 21, visite guidée tous les jours de 14h à 18h30.
Et si vous êtes bien sage, un jour on fera une émission sur les zouaves pontificaux avec le colonel Duréo, le père Argouache et d'autres personnes qui sont des descendants de zouaves pontificaux. Je signale aussi que je vais republier dans un prochain numéro, à la demande de beaucoup d'auditeurs et de lecteurs, la magnifique prière à Jeanne d'Arc que Vladimir Volkov avait écrit quelques semaines avant de disparaître, et que le numéro du Libre Journal en cours est un hommage, pas tout le numéro, mais enfin il y a un hommage à Vladimir Volkov, à qui nous pensons, et à qui nous pensons tout spécialement le 2 octobre, puisque vous savez que c'est la grande réunion à Peine de Pie, au manoir de Blossville, c'est lire sous les pommiers, la très jolie initiative d'Anne Brassier, donc 2 octobre, à Peine de Pie, entre Honfleur et Trouville. Bonne semaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le Libre Journal de Serge Le Bekech, présenté en première partie par Daniel Amiche, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 21, pas 22, il souffle de travers. Mercredi 21 septembre, de 18 à 21h, en différé jeudi 22, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs.